Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.
Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi.
Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains.
Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs.
L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés.
On appelle ça l'altruisme intéressé.
Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 6. Je procède au rappel traditionnel, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative. En un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous soutenir financièrement en faisant un don. Du montant qu'il vous paraît le plus adapté, le plus adéquat. C'est bien évidemment sur la seule base du volontariat et ce n'est qu'en crypto-monnaie. Pourquoi ? C'est simplement pour éviter que les moyens de paiement ne soient censurés par le gouvernement. Vous savez bien que si vous utilisez des interfaces comme PayPal, et ben, voilà, ça va vite être banni, donc nous n'utilisons que les crypto-monnaies, donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à partager le numéro hebdomadaire de Démocratie Participative en PDF, il est disponible chaque semaine, et vous devez le partager si possible avec des amis, etc. Et n'hésitez pas à utiliser une mailing list, une liste d'emails de personnes qui sont demandeuses, comme ça pour répandre la parole. Donc chaque lundi, normalement, vous le trouvez sur le site. Je vais présenter maintenant les participants de cette semaine. Astérix est avec nous. Salut Asté.
Salut Godel, salut tout le monde.
Magdav est avec nous aussi cette semaine. Salut Magdav.
Salut tout le monde.
Captain America nous fait le plaisir d'être avec nous aussi cette semaine. Salut Captain.
Salut les auditeurs, salut les participants, en avant Guingamp, en avant les...
Nègres. Voilà.
Merci.
Alexis est avec nous aussi cette semaine, salut Alex.
Salut Gandalf, et salut à tout le monde.
Fulbert nous fait le plaisir d'être avec nous aussi cette semaine, salut Fulb.
Bonjour Gandalf, bonjour à tout le monde.
Et enfin, Derek nous fait le plaisir d'être là. Il s'est remis, t'as été foudroyé, je crois, Derek, mais voilà, miraculeusement, il est sur pied et il peut être avec nous.
Oui, petit souci, mais bon, ça me tape peut-être encore un petit peu à la voix, mais bon, on va essayer de d'être opérationnel pendant toute l'émission.
Formidable, formidable. Commençons tout de suite cette émission par la rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Premier courrier, enfin il n'y en aura qu'un d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis premier courrier. Le courrier en question, c'est un jeune auditeur qui nous écrit. Bonjour à l'équipe de Démocratie Participative. Je souhaite vous faire part de mon expérience déconcertante vécue récemment lors de mes cours d'histoire au lycée. Tout d'abord, je souhaite souligner que mon lycée n'est pas particulièrement sémitisé. On nous enseigne un mode de pensée maçonnique basé sur la liberté et la laïcité, plutôt que juif basé uniquement sur le nègre. Cet auditeur apprend vite. Dernièrement, nous abordions un nouveau chapitre de notre cours d'histoire traitant entièrement de la Shoah. D'habitude, un chapitre porte sur une phase générale, Deuxième Guerre mondiale, Révolution industrielle, mais cette fois, nous allions discuter uniquement du juif. Donc il pointe la disproportion, la place que prend l'Holocauste donc dans son livre d'histoire, puisque ça occupe en fait la même place que la totalité du conflit mondial, du deuxième conflit mondial, ou effectivement la révolution industrielle. Bon. On nous a parlé des grands classiques, Ah bon, ah oui, là c'est surprenant. Des grands classiques. Savon, abat-jour, chambre à gaz, etc. Globalement, je remarque que mes camarades sont anormalement sages et silencieux. En discutant avec eux par la suite, je fis certains constats. Les gens s'en foutent. Ils ne sont ni pour, ni contre la Shoah, ils sont indifférents. Néanmoins, ils sont pétrifiés. Le cours me fait penser à un jeu de 1, 2, 3 soleil où personne n'ose faire le moindre mouvement par peur d'être mal vu par l'enseignante. Je ressens une véritable pression, comme lors d'un entretien d'embauche. Chaque geste est analysé et risque d'être interprété comme une sympathie pour Hitler. La prof semble aussi terrifiée. La théâtralité larmoyante qu'elle adopte en parlant de l'inventeuse du stylo bic est pathétique. L'inventeuse du stylo bic, c'est... Hein,
Anne
c'est...
Frank, quand même.
Anne Frank, voilà. On se croirait à l'enterrement de Kim Jong-il. Par la suite, on nous montra le film Nuit et brouillard. L'enseignante nous prévient que le film est très triste et que les âmes sensibles peuvent sortir de la classe si besoin. Pendant le visionnage, un arabe de la classe s'endort, n'étant sans doute pas fan de fiction. L'enseignante arrête immédiatement le film. Sacrilège ! Le pauvre est immédiatement fichu à la porte. Un jour, l'enseignante nous annonce que nous allons faire un pèlerinage dans un ancien camp de concentration. Elle nous met en garde que si nous ouvrons notre gueule, nous serons gravement punis. Lors d'une précédente visite, la prof explique qu'un élève avait pété un câble et tout balancé. Les juifs ont fait le 11 septembre, les chambres à glace n'ont jamais existé. J'observe là que le corps enseignant utilise la stratégie de la terreur pour nous faire taire. Bref, cette expérience m'a permis de faire deux constats. Premièrement, globalement, les gens s'en fichent de l'Holocauste. Ils y montrent de l'intérêt uniquement s'ils en tirent un avantage, salaire, promotion au travail ou validation sociale. Malheureusement, cela ne veut pas dire qu'ils s'intéressent pour autant au national-socialisme, ce qui marquerait une véritable défaite pour les Youpins. Deuxièmement, la race juive a un grand talent pour créer des tyrannies mentales basées sur la peur. Autre exemple pour étayer mes propos, le concept du dieu unique que le juif a créé pour contrôler le comportement des croyants avec, comme menace, l'éternité en enfer. Alors pour ça, je ne vais pas rentrer dans la théologie, ça c'est encore des... Hein. En outre, la Shoah et le concept de dieu unique sont deux formes de dictature mentale créées par le juif pour intimider, extorquer et contrôler. Cordialement, Neil, qui nous écrit. Alors, on va pas faire de religion, parce que là, on est sûr de mettre tout le monde en désaccord, donc c'est pas, voilà. Mais on peut quand même, j'aime bien l'association qu'il fait, hein, entre le dieu terrifiant Yahvé et effectivement le totem shoatique, effectivement, il y a peut-être quelque chose de...
Yahvé te commande de pleurer, Goy. Pleure.
Voilà, c'est ça, un dieu colérique. Alors, je vais solliciter les réactions de nos intervenants. C'est quand même... Nous, on le sait, enfin, je ne sais pas si vous avez été soumis à ça, moi je me rappelle quand même de ce par quoi je suis passé à l'école, j'ai quand même pas eu, tout ce parcours-là, mais je sais que par la suite, c'était hétéroclite, en fait. C'est-à-dire que selon les enseignants, les établissements, la façon de traiter cette question historique, entre guillemets, varie. Est-ce que ça va intégrer une visite à Dachau, est-ce que ça va... Il y en a, hein, ou alors au Struthof, ou ce genre de choses, ou est-ce que non, ça va être juste un visionnage, ou uniquement une lecture. Bon, ça varie quand même beaucoup selon les classes et les établissements. Mais là, lui, il a eu le programme complet. Alors, qui veut prendre la parole pour répondre à notre auditeur, quoi, qui passe par ça, enfin, qui est passé par ça?
Répondre, ou
faire des observations, enfin, je veux dire.
Une petite remarque, j'ai bien aimé le fait que bon, les gens ne sont ni pour ni contre, c'est entre les juifs et les nazis, ils sont neutres, tu vois. c'est une blague qu'avait fait Dieudonné il y a quelques années. Bon, je pense pas que ce positionnement là satisfasse la soif de vénération de Jéhovah. Hein.
Non. Ah non. Elle doit être inconditionnelle et totale. Mais c'est bien quand même qu'un lycéen. Ah, il dit il y a une pression. C'est, je sais pas, on pourrait parler, je sais pas, quand la Première Guerre mondiale, les morts que toutes les familles françaises ont vécu d'ailleurs. Enfin, leurs ancêtres, j'entends. Donc là, ça devrait être émotionnellement extrêmement fort. Mais il n'y a pas de malaise. Alors là, on sent bien de ce qu'il nous dit hein, qu'il y a un malaise, hein. Il y a une pression dans la salle. C'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul à dire je me sens vraiment oppressé. Il dit non, vraiment dans la salle, tout le monde est silencieux. Personne n'ose moufter parce qu'ils sentent qu'il y a un œil qui les regarde. Qu'est-ce vous avez envie de faire une remarque à ce sujet-là ? Sur cette espèce de conditionnement-là ?
Déjà, il y a une remarque à faire. C'est que moi, à mon époque, c'est-à-dire il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il n'y avait pratiquement pas de jeunes qui avaient des doutes, en fait. C'était très très rare. Le révisionnisme n'était pas aussi mainstream qu'il est aujourd'hui. Internet n'était pas aussi développé qu'il est aujourd'hui aussi. Donc déjà félicitations à notre jeune auditeur pour ne pas s'être fait avoir sur la chialerie sémitique. C'est un très bon point. Mais je pense que c'était un peu moins offensif que ça l'est maintenant. Vu que maintenant, justement, les jeunes peuvent se renseigner ailleurs et d'ailleurs, je pense que sa prof est très très conne, hein, puisque parler des abat-jours et du savon juif, c'est ridicule. Tout le monde sait que ce sont des faux. C'est même dans la version officielle de la Shoah. Enfin, officielle. La version juive de la Shoah.
Oui. Donc, ouais, il faut bien que tu soulignes ça. Hein. Il faut que ceux qui nous écoutent, hein, je veux dire, l'histoire des savons, enfin l'utilisation de la graisse des Juifs par les nazis pour faire du savon, a été officiellement démentie par les historiens les plus institutionnels qui sont les tenants de la version officielle. Hein. C'est clairement débunké, ça n'a jamais eu lieu et c'est clairement admis. Il n'empêche qu'en Israël, faut le savoir, en Israël, il y a des monuments. À la mémoire des victimes, à la mémoire des juifs victimes des nazis qui ont été transformés en savon. Ça existe. Alors que c'est complètement débunké. Hein. Et il y a des monuments, c'est écrit dessus. Voilà. Donc c'est important ce que tu dis. Donc je voulais vraiment le souligner.
Il faut à côté des monuments aussi souvent.
Hein. Non, mais sur ce que dit MacDav, c'est important de le souligner. Hein. C'est pas uniquement des révisionnistes qui contestent ça, c'est admis par tout le monde. Et ce qu'on voit, ce que nous dit ce jeune auditeur et ce que disait MacDav, c'est qu'en fait, même si c'est complètement débunké, ces vieilles légendes continuent à être diffusées dans l'enseignement français.
Oui, c'est la suite de l'Ancien Testament, quoi. Hein. C'est Moïse a vu le buisson ardent, Dieu est apparu. Là, c'est pareil, c'est la Shoah, savon, abat-jour, etc. Tu dois y croire, tu dois te comporter en adéquation avec la croyance en question. C'est un rite, hein. C'est une messe, hein, c'est pas vraiment une messe, là, c'est plutôt un rite de passage de style communion ou baptême, mais bien sûr qu'il ne soit pas chrétien pour un sou.
Alors, ouais, c'est la confirmation, hein. Parce que tu l'étudies quand, la Chouina, au lycée, mais surtout en troisième.
À plusieurs reprises, non?
Ouais, mais je pense que tu la vois plusieurs fois, mais t'as bien raison, c'est un rite religieux, en fait, ça fait penser à la confirmation, je trouve.
C'est ça. Bah oui, tu l'as partout. Tu l'as au collège, au lycée, tu l'as partout. Moi, toutes les années, t'as un truc, on profite pour rappeler que 6 millions de juifs, blablabla, blablabla. Tel ou tel truc, la révolution, les années 30, pof, la seconde guerre mondiale, pof, la première guerre mondiale qui après a mené au fascisme, oui, et aux 6 millions de morts, tout est prétexte pour arriver aux juifs. Voilà. Et à son martyr. Voilà.
Et n'oublions pas qu'à côté des cours, il y a les médias, la télévision qui en permanence ressassent, quoi. Donc même quand vous n'êtes pas exposé à ça à l'école, il y a encore ça sur les médias, quoi. Donc, comment dire, je voulais souligner un truc très intéressant, très drôle. Je sais qu'Alexis a probablement... je pense que tu as dû lire le travail de... Enfin, je pense, parce que tu as lu des travaux de Reynald Secher, pardon.
Oui.
Je ne sais pas si tu as lu... Comment ça s'appelait ? Il a repris les travaux de Gracchus Babeuf pour parler du populicide, parce que Gracchus Babeuf a utilisé le terme de populicide pour parler de ce qui s'était passé en Vendée lors de la Terreur, quand il y a eu quand l'armée républicaine a été envoyée en Vendée pour exterminer la population de manière indiscriminée. Est-ce que tu as lu cet ouvrage? J'ai oublié.
Ah oui, c'est peut-être celui qui s'appelle La Vengée, La Vendée Vengée, pardon.
Non, je crois pas.
Histoire d'un génocide franco-français.
Non, je crois pas. Mais bon, de toute façon, c'est voilà. Ce qui est très intéressant dans l'ouvrage, c'est dommage que j'ai pas le nom de l'ouvrage en tête, mais de toute façon, c'est cher. On a parlé dans plusieurs ouvrages, et de toute façon, il a dû prendre la parole là-dessus. Mais est-ce que vous savez que tout ce dont ont été accusés les nazis, enfin les nationaux-socialistes, vis-à-vis des juifs, c'est-à-dire
le savon, les abat-jour, etc. Ouais, ça a été fait par la République. Hein. Donc les valeurs de la République.
Voilà, wow. ça a été fait éprouvé. Ça a été fait par la Convention et les colonnes républicaines en Vendée, parce qu'on a les documents. Donc, tous les fours, vous savez, moi je lis la littérature exterminationniste. Ah, tout ça a été débunké depuis, hein, je précise. Hein. Parce que vous avez toute une littérature exterminationniste, où il y avait des juifs, en fait, ça a été une course à l'échalote. Hein, c'est-à-dire que le juif qui arrivait avec l'histoire la plus rocambolesque sur les crimes, les machins, il mettait tout ça par écrit et ça faisait sensation et ça circulait. Ça a été vraiment un grand business qui a commencé, je dirais. Bon, ça a commencé très tôt, en fait, parce que tout de suite, même quand la guerre n'était même pas terminée, ça a commencé, en fait, les récits sur l'horreur, l'indicible, etc. Mais. Attends, simplement.
Je coupe deux secondes, Gandalf, mais on retrouve d'ailleurs le chiffre de 6 millions bien avant que la Seconde Guerre mondiale commence. Oui. On retrouve ce chiffre de 6 millions de juifs morts déjà avant. Ils ont préécrit l'histoire. Quoi.
Bah, ils ont ici ce chiffre de 6 millions avant même la Première Guerre mondiale. Ça, il faut le savoir. Dans la presse juive, notamment américaine, il y avait déjà l'évocation de ce nombre. Hein. 6 millions de juifs sont en train d'être exterminés. Bon, bref. Après la Deuxième Guerre mondiale, où on a vu des récits, je veux dire, dantesques, hein, au sens propre du terme, hein, vraiment des visions d'enfer, on a des, comment dire, il y a un récit extraordinaire qui est toujours cité d'ailleurs par l'université américaine, il faut le savoir, ça. Ça fait tellement rire qu'on appelle ça le l'holocauster. Donc l'holocauster, parce que, en vrai, comment dire, un roller coaster, c'est le nom qu'on utilise pour les montagnes russes. En anglais, les montagnes russes, on appelle ça roller coaster. Donc c'est un jeu de mots, holocauste, roller coaster, l'holocauster, lol quoi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un récit d'un survivant qui explique que les juifs étaient chargés sur des espèces de wagons où ils étaient précipités à toute allure. Comment dirais-je, sur des rails, vers comme une espèce de grande fournaise, je crois, et ensuite ils étaient baignés là-dedans, ils étaient incinérés, des délires, hein, qui sont même plus du tout retenus aujourd'hui par la littérature officielle. Hein. Il y a toute une série de choses comme ça qui ont été virées.
Parce que Elie Wiesel a écrit dans La Nuit, je crois, des choses de ce type-là. Hein.
Ah, c'est possible. Alors, on avait, par exemple, un autre exemple, c'était des grilles faites avec des rails. Des barbecues géants. Donc on mettait, si vous voulez, il disait, on creusait comme ça dans le sol des énormes trous, on mettait des grandes grilles et ensuite on mettait les cadavres de juifs là-dessus et on mettait le feu et on récupérait la graisse. Alors tout ça a été complètement débunké, hein, je précise. Hein. Mais on a les témoignages donnés par Reinald Secher de ces expérimentations en Vendée. Et on le sait pourquoi, parce qu'il y a des documents. C'est toute la différence, en fait. Il y a des documents officiels, quoi, de la Convention, et ils se sont livrés à toute une série d'expérimentations. Ils voulaient savoir, parce que la République française était en guerre à ce moment-là, et donc ils recherchaient vraiment tout ce qui pouvait être matière première, quoi. Ils disaient, mais on peut peut-être utiliser la graisse pour faire quelque chose, quoi. Et est-ce que vous saviez aussi que, alors ça a échoué, mais que une expérimentation de gazage a été tentée sous l'œil de ce qu'on appelait les conventionnels dans l'équivalent des députés, en Vendée. Vous le savez ou vous ne le savez pas, ça? Vous ne saviez pas? On a essayé les gazages. Ce n'était pas concluant, ça n'a pas été concluant, ça n'a pas tué, en fait, parce que c'était vraiment très élémentaire, très rudimentaire. Ils ont essayé des boules, ils ont essayé cette espèce de boule qui contenait des produits chimiques, ils ont essayé de lancer ça sur des victimes et ça pour voir si le gaz qui se libérait les tuait, ça n'a pas du tout été concluant. Simplement, ils se dégénaient, des conventionnels aussi dégénaient durant l'expérience. Je sais qu'ils ont essayé de les asphyxier je crois, dans des pièces aussi, enfin dans des espèces de bâtisses. C'est ça, ils ont essayé de les tuer, mais là avec du feu, quoi. Hein. Enfin, pas avec la flamme, mais avec de la fumée, quoi. Ils ont essayé de les enfumer jusqu'à les tuer. Bon, là aussi, c'était pas très concluant. Comment dirais-je, les fameuses histoires d'abat-jour. Ils n'utilisaient pas les abat-jours. Enfin, ils n'utilisaient pas les peaux des Vendéens pour en faire des abat-jours, mais pour faire des culottes, ce qu'on appelait des culottes, c'est-à-dire des pantalons. Et il y avait des généraux qui avaient des pantalons en peau humaine. Il faut le savoir. Et alors, il y a un truc qui est encore vérifiable aujourd'hui, pour dire que c'est pas faux ce que je raconte, c'est qu'il y a un exemplaire de la Déclaration des droits de l'homme qui a une couverture en peau humaine et elle est au musée Carnavalet. Vous pouvez voir la déclaration, enfin, je ne sais pas s'il expose, mais elle est là-bas, il y a des photographies qui existent, donc de ce livre, en couverture, dont la couverture est en peau humaine, et qui est la Déclaration des droits de l'homme. Voilà, donc, faite avec de la peau de chou, hein, si ma mémoire est exacte. Donc, vous voyez, c'est très marrant comment cette République, qui nous parle donc de ses valeurs, a expérimenté la totalité des accusations qui sont portées contre les nationaux-socialistes, dont on sait par ailleurs que tout est faux. Je voulais m'attarder là-dessus, mais et vous pouvez, alors si vous doutez de ce que je dis, référez-vous aux ouvrages de Reynald Secher, il en parle très très bien. Donc l'expérimentation non concluante des gaz contre la population civile en Vendée, les expérimentations, la récolte de la graisse humaine sur justement des cadavres qu'on faisait brûler. Qu'est-ce qu'on a essayé encore ? Donc recycler les cadavres pour en faire des biens d'usage, comme donc leur peau, en utilisant notamment leur peau. Voilà. Bon, ça, tout ça, ça a été fait en Vendée. En revanche, ça n'a jamais été fait à Auschwitz. C'est drôle quand même.
Bah, les Juifs nous avaient habitués à l'inversion accusatoire. En fait, ils se livrent depuis la nuit des temps à la récupération accusatoire.
Je ne sais pas s'il y a un lien, je ne sais pas si les accusations qu'ils ont formulées, quelqu'un est tombé sur ces... Je ne sais pas, mais c'est absolument avéré. Et je recommande Gracchus Babeuf a écrit, c'est un contemporain des fêtes. Hein. Gracchus Babeuf qui était...
Il me semble que Reynald Secher, je crois justement, parle de la révolution bolchevique et du fait que, je crois, Lénine était allé s'en carrière des méthodes qui avait été employé justement pour le populicide vendéen, et qui avait eu des trucs assez... des expérimentations un petit peu plus, c'est-à-dire que ça avait été appliqué en Russie, en URSS. Donc le fait que tu retrouves ça après, 20 ans plus tard, tous les bobards juifs, mais judéo-communistes, hein, ils avaient déjà tout récupéré hein, de ce côté-là. Hein.
Ouais, parce que oui. Lénine était juif par sa mère, il parlait l'hébreu, le yiddish, pardon, dans sa famille. Sur le lien, entre la Révolution française et les populicides de Vendée, et puis la Révolution bolchevique, qui a donc consisté largement à tuer des millions de Russes blancs et des chrétiens slaves, eh bien, il y a aussi Solzhenitsyn le savait et était très intéressé par ça. Solzhenitsyn qui a écrit sur la nature juive, notamment de la révolution bolchevique, dans Deux siècles ensemble. Solzhenitsyn qui a rencontré Philippe de Villiers, notamment, qui en parle aussi, mais Philippe de Villiers ne parle pas beaucoup des Juifs, hein, c'est vrai, mais de Villiers ose parler quand même du lien, malgré tout, entre le populiste de Vendée qui tient à cœur à de Villiers, puisqu'il est lui-même vendéen, et donc la révolution bolchevique. Voilà.
Alors, c'est très intéressant cette jonction, entre l'affaire vendéenne, enfin la destruction en fait des populations vendéennes par la Première République et la Révolution bolchevique, et plus exactement Auschwitz. Ce qu'il ne faut pas oublier, qu'Auschwitz a été entre guillemets, et là ça vaut le coup de le rappeler, libéré par l'armée rouge.
Oui, par l'armée rouge. Donc c'est pour ça qu'ils, enfin c'est eux que je. C'est eux qui ont mené tous les bobards, quoi.
Bien sûr.
Toute la narration, quoi.
Voilà, exactement. Et ils ont tellement libéré les camps, on a encore eu des exemples récents. Un exemple tout à fait récent, mais sur lequel on est, je crois, revenu sur le site. Mais...
Oui, bon. C'est-à-dire des prisonniers juifs qui ne voulaient pas être libérés par les Rouges et qui ont suivi la retraite des soldats nazis, quoi.
Ils ont suivi les gardiens SS des camps de concentration. Et il y a un exemple très récent, puisque je lisais France Info, France 2, pardon, France 2, la télévision d'État française, a une nouvelle fois, on parlait hein, du matraquage médiatique, a une nouvelle fois excipé d'une lettre découverte à Auschwitz, qui était destinée à sa famille restée en France, qui expliquait comment dire, le procédé de destruction des Juifs par gazage et incinération. Hein, on nous disait ça. Alors, ce qui était fascinant, parce que c'est écrit dans la lettre, c'est qu'elle était adressée à sa famille restée à Paris, à sa famille juive restée à Paris, où on y donnait, enfin, l'adresse, visiblement, et en tout cas, était expliqué. Enfin, il expliquait qu'il avait pas écrit depuis longtemps parce qu'il n'avait pas eu le temps. Donc c'était une lettre depuis au moins le mois de juillet, etc. 1944. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que ce juif explique dans la lettre qu'agite le mémorial de la Shoah et dont parlait la télévision d'État, c'est que ce juif dit en toutes lettres qu'il échangeait avec sa famille juive restée en France par la poste du Reich. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les types vous expliquent que les Juifs en train d'être exterminés à Auschwitz communiquaient par lettre le plus officiellement du monde pour détailler comment dire, le soi-disant le processus d'extermination par la poste du Reich. C'est officiel, c'est pas moi qui raconte des conneries. Il y a des copies qui existent. Elles sont disponibles et c'était sur un site communiste, d'une chercheuse communiste. Donc pourquoi? C'est pour ça que je voudrais revenir sur ce point de détail de la dimension communiste. C'est-à-dire que les camps, on le sait, les camps allemands, les camps de prisonniers allemands étaient gérés à l'intérieur. Bon, il y avait bien sûr l'administration pénitentiaire SS, mais la police dans le camp était assurée en réalité par les communistes. Donc, tout ce qui a été dit ensuite par les soi-disant survivants de l'Holocauste l'a été pour l'essentiel des communistes. Et dans cette affaire de lettres, on a un équivalent parce que ce témoignage a eu une espèce de copie. Je rentre pas trop dans les détails, mais une espèce de copie, c'est-à-dire qu'en avril 1945, il y a un survivant d'Auschwitz qui n'était pas juif, mais qui était communiste, qui avait été déporté en tant que communiste à Auschwitz, en fait, de terroriste communiste hein, qui menait des attentats, etc. Et aussitôt libéré, le premier jour qu'il arrive à Paris, en avril 45, qu'est-ce qu'il fait? M'entendez bien, le premier jour, c'est officiel tout ce que je dis, c'est cité par des historiens communistes. Hein. Il est allé au siège du journal L'Humanité. C'est un curieux réflexe quand même, vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes à peine libéré des camps de concentration, vous avez soi-disant vu le génocide des génocides. Premier jour, vous arrivez sur le quai de la gare. Premier réflexe? Vous allez au siège du journal du parti stalinien pour expliquer l'horreur, l'indicible. Et là, il fait mention d'une histoire un peu identique en disant, voilà, j'ai croisé un juif qui nous a montré, il nous a montré comment on gazait les juifs. Il dit qu'il a été un témoin oculaire, qu'un juif qui s'occupait de ces opérations-là, donc de gazer les juifs et ensuite de les brûler. Lui a montré le processus comme ça très furtivement et a dit et le juif lui disant racontez, dites. Et il y a un autre nom, il donne un autre nom, mais très curieusement, le juif en question, cité par les communistes, était originaire du 12e arrondissement, et cette lettre en question, il est originaire du 11e arrondissement. Et le problème qu'on a, c'est que la famille qui détient cette lettre et qui l'a donnée au fameux mémorial de l'Holocauste il y a quelques semaines, quelques mois, et dont a fait grand écho la télévision d'État française, ne porte pas le même nom que le juif en question. Et pourtant, c'est censé être leur descendant direct. Il n'y a rien qui colle là-dedans. Bon. Toutes ces histoires ont été des bobards diffusés en masse par les communistes tout de suite, en avril 45. Même avant, bien sûr, hein. Mais en avril 45, les récits des survivants, tout ça est pris en main par les communistes. Que ce soit les Polonais communistes, hein, donc les fantoches en fait à la solde de Moscou qui sont installés immédiatement sur tous les territoires conquis par l'armée rouge, ou les communistes qu'on libère des camps, qu'on renvoie, que l'armée rouge renvoie dans leur pays d'origine, en France, en Italie, partout, quoi, hein. Et on leur dit, les gars, faut raconter, hein. Et voilà ce que vous allez dire.
Oui,
Parce que
tout à fait.
là, ouais.
Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est un pan de l'histoire qui est en fait qui est pas trop connu. Mais parmi les capos, donc effectivement les gens qui étaient chargés de la police interne des camps, enfin, il y avait les triangles verts qui étaient en fait des déportés de droit commun, donc des criminels, et les triangles rouges. Et toute la mythologie juive et Primo Levi en premier lieu, il en parle beaucoup, dit qu'en fait les triangles verts étaient des sadiques et que les triangles rouges étaient des bons capots. Et tu retrouves ça mais partout, y compris dans le film de l'Italien là, je sais plus c'est comment il s'appelle, Benito, je ne sais plus quoi là. Il parle de ça.
Roberto Benigni.
Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est les gentils.
Allez, attends. Il n'est pas italien, il est juif,
oui,
précise-le.
Juif. Ouais. Oui, c'est les gentils triangles rouges qui en fait ont pacifié les camps et c'était en fait le visage humain des camps de la mort, c'était les cocos. Ce qui est juste totalement faux.
C'est ça qu'il faut souligner, en sachant que beaucoup des rouges, parce qu'on cumulait les qualités, ne l'oubliez pas, c'est que beaucoup des terroristes rouges qui étaient arrêtés par les Allemands étaient aussi accessoirement des juifs. Faut pas perdre ça de vue, hein. C'est-à-dire que la cause qui avait valu leur internement, c'était peut-être qu'ils soient rouges, mais en plus ils étaient juifs. Mais il y avait pas que des juifs, hein, chez les communistes. Mais ça, il faut le comprendre, parce que tous les soi-disant crimes du national-socialisme, les trucs délirants qu'on a entendus, les savons, on a diffusé une vidéo, c'est cette semaine ou il y a 10 jours, sur le site d'une juive qui était originaire de Grèce, je crois, ou d'Italie, je ne sais plus. De Grèce, je crois. Dans laquelle elle dit que les nazis, je la cite, faisaient des saucisses avec les cadavres des juifs gazés. C'est en vidéo, c'est cité, d'ailleurs c'est en archive dans l'université de Californie du Sud, dans les archives de l'Holocauste de cette université-là, c'est cité comme étant quelque chose de tout à fait. Tout le monde sait que c'est bidon. Il n'y a pas un bouquin d'histoire officielle, si vous voulez, même de l'histoire officielle, hein, qui reprend cette histoire de saucisses à base de juifs, je veux dire. Mais elle explique, et elle reprend aussi l'histoire du savon. Elle dit, on nous donnait des blocs de savon avec marqué, il y avait un acronyme dessus, qui voulait dire pure graisse de juif.
R-I-F, en fait, c'est ce qui veut dire pure graisse juif en allemand.
Mmh. Ce qui va du délire, hein. Et alors donc voilà, il disait voilà, on mangeait des saucisses à base de juifs, voilà, alors de juifs gazés, hein, précisez bien. Donc les types bouffaient des saucisses à base de juifs gazés avec du Zyklon B. Ils survivaient très bien, en fait. Non, c'est délirant. Bon, c'est complètement faux, mais ce sont des témoignages qui sont encore cités, alors qui sont totalement infondés. Et personne, sérieusement, même les tenants de la version officielle ne s'amuseraient à citer des trucs pareils. Hein.
C'est pas ça, c'est que non seulement personne ne remet ça en cause, mais ces témoignages plus que délirants n'étaient pas pris au sérieux il y a encore quelques années. C'est-à-dire, au plus on avance, au plus la version qu'on est censé gober devient délirante. Mais alors, c'est de plus en plus le mythe, quoi.
Cette version-là, elle est dans les archives. Elle est prise pour argent comptant. Hein. C'est dans les archives de l'Université de Californie du Sud. Elle n'est pas, elle n'est pas mise en interrogation ou quoi que ce soit. Hein. On verse ça dans le fonds d'archives. On dit, voilà, c'est un témoignage d'une survivante. Voilà, bon. Et évidemment, la littérature officielle, aujourd'hui, ne reprend pas à son compte ces témoignages-là. Mais ils traînent. Et on les laisse volontairement traîner. Parce qu'évidemment, beaucoup de gens ne vont pas se poser la question de savoir si ce que dit ce survivant est vrai ou faux, a été recoupé ou non recoupé, ou si c'est convaincu de mensonge, etc. Jamais. Parce qu'on ne peut pas accuser, vous comprenez, même quand c'est archi faux et qu'on peut le prouver, personne, pas un journaliste, pas un historien, ne va s'amuser à dire « Attendez, là, c'est quoi ce témoignage délirant, là ? Pourquoi ?» Il va immédiatement soupçonner de révisionnisme. Donc on laisse ces stupidités prospérer, et il y a des esprits cyniques qui, eux, savent que c'est bidon. Enfin, je dis des esprits cyniques, vous savez à qui je fais allusion, les laissent traîner volontairement pour que les gens continuent à gober, pour que le goy continue à avaler ça. Mais scientifiquement, c'est évidemment totalement invalidé, je veux dire, même dans la
totalement. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur un point très très important, parce qu'on pourrait penser que vu que la Shoah est surenseignée dans le secondaire, que en principe, on s'imagine que dans le supérieur, c'est, enfin, il y a des thèses, des mémoires à profusion, mais pas du tout. En fait, la chouina, elle vous est rabâchée avant le bac, et si vous faites des études d'histoire, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pratiquement pas de thèse. Le seul livre qui fait référence sur le plan technique a été écrit par un révisionniste retourné, Jean-Claude Pressac, et il y a de fortes chances que ta prof, Neil, ne connaisse pas la version officielle de l'extermination des Juifs.
Oui.
Il y a de fortes chances qu'elle ne connaisse que dalle et que tu en saches plus qu'elle. Parce qu'il n'y a même pas, y a pas une thèse sur le processus d'extermination des Juifs. C'est ça qui est dingue. Il n'y a rien.
Tu parles bien du processus technique. Hein.
Oui, bien sûr. Après, effectivement, dans la littérature, dans la littérature, effectivement, tu as d'autres choses. Mais dans le processus technique, tu auras rien du tout, en fait.
Il y a un truc à souligner, hein, parce que juste avant que, comme il en parlait à propos des gens braises, vous connaissez la version officielle, hein, de la méthode d'exécution. Officiellement, il y avait des nazis qui montaient sur le toit du fameux bunker et qui versaient des pots de zyklon par un trou. D'accord ? Donc les gens, ça, les chambres à gaz, posent la question, les gens ils disent aux chambres à gaz, les gens ils disent il y a du gaz, genre par des tuyaux, les douches. C'est repris d'ailleurs dans celle qui parle justement de l'exécution par. Donc il parle des saucisses à base de juifs, elle dit que le gaz venait par les pommeaux de douche, mais un coup c'était de l'eau, un coup c'était du gaz, c'était pour nous tromper. Bon, ça fait très longtemps qu'on sait que la version officielle ne reprend plus l'histoire des douches, je veux dire. Hein.
Soi-disant des granulés qu'on envoyait.
C'est ça. Alors, est-ce que vous savez que ces fameux trous qui sont présents en haut, là, à Auschwitz, de la fameuse chambre à gaz, c'est avéré, hein ?
Ils ont été refaits dans les années 60, enfin, ils ont été faits par les
soviétiques. Ouais, ils ont été faits par les communistes polonais. Ce qui est prouvé, hein.
C'est-à-dire que le truc devait pourrir à l'humidité à l'intérieur, ils se disent, bon, on va faire des ouvertures pour aérer un peu, quoi. Et t'as les mecs sur le taré, c'est là quoi, c'est là, les mecs ils étaient là-haut, ouais. ils balançaient les trucs.
Ce n'est pas contesté, c'est contesté que ça a été, voilà. Et Forisson les a magnifiquement, c'est là qu'il a fait tout s'effondrer, parce que Forisson a démontré, parce qu'on montrait aux gens la chambre à gaz, les fours crématoires, et lui ça concernait les fours crématoires, et on disait voilà les fours crématoires. Forisson a réussi à faire avouer les autorités polonaises qui conservent le camp, au moment où le pays était encore sous la botte communiste, faut pas le perdre de vue. Quand Forisson va à Auschwitz faire ses observations, le pays est encore sous la botte communiste. Et on en a parlé. Donc attention, c'est pas une démocratie libérale où on peut avoir son opinion, on peut enquêter. Non, non, non. C'est encore le système communiste. Et il est là, et il piège un des guides auquel il parvient à faire avouer que c'est une reconstruction. Alors c'est problématique, parce que comme l'a bien montré Forisson, c'est censé être l'arme du crime. Elle est censée être intacte, et elle est censée démontrer que ça existait. Or, les autorités avouent. Eux, ils disent, oui, ça a été reconstitué. Eux, ils disent reconstitué. Reconstitué ou constitué ? La question est posée. Hein ? Bon.
À savoir que le guide qui a balancé le truc, ils en ont fait réellement des abat-jours pour le coup.
Alors, sa grande découverte, en fait, c'est d'avoir trouvé les plans de la chambre à gaz. À la faveur de cette discussion avec ce guide, il a dit « Ah, mais si c'est une reconstruction, alors vous aviez les plans. » Et là, l'autre lui dit « Bah oui, je peux les voir. Oui, si vous voulez. » Et c'est là que Forisson a eu accès aux plans. Où on voit en fait que c'était simplement une morgue, c'était pas une chambre à gaz, c'était une morgue.
Il y avait les originaux des plans en allemand à côté des copies polonaises, et c'était marqué, bien marqué sur le plan, c'était marqué l'équivalent de morgue. Voilà.
Leichenkeller, ouais. Alors, ouais. Je vois qu'Alexis voulait prendre la parole, ouais.
Oui, il y a plein de choses. On pourrait dire, bah, il y a par exemple, tout ce qui tourne autour du docteur Mengele aussi. Docteur Mengele, soi-disant, c'était quelqu'un qui, dans son, qui donc était prétendument un médecin national-socialiste, qui procédait à des expériences les plus farfelues, les plus cruelles dans son cabinet. Forisson a rétabli un certain nombre de choses. Je crois qu'il va très loin, jusqu'à peut-être même détruire l'existence même de Mengele. Mais enfin bon, il faudrait revérifier tout ça. En tous les cas, il y a un film qui a été récemment basé là-dessus, là, assez récemment, c'est L'Labyrinthe du silence, traduit en français, Le Labyrinthe du silence, film italo-allemand, avec des parenthèses de chaque côté, à mon avis, mais où on prétendait que ce médecin avait donc des yeux qui étaient pas des yeux de gens morts, de juifs morts, qui étaient partout accrochés dans son bureau. Bon, déjà à l'époque, on disait c'est pas possible, les yeux ne peuvent pas comme ça être à l'air pur, ils vont éclater, enfin ils vont se dissoudre ou se disloquer. Bon, ouais. Et dans ce film, on raconte que Mengele avait par exemple cousu ensemble des enfants juifs, de telle sorte qu'ils soient des siamois alors qu'ils n'étaient pas à la naissance. Enfin, il y a tout un tas d'histoires. Mais parfois, c'est même, il y a des choses, on raconte par exemple l'histoire des saucisses, etc., des juifs. Peut-être que c'est faux, j'en doute pas, mais dans certains cas de l'histoire, ce genre de choses a existé, probablement. Par exemple, une yézidi, je crois, qui avait été arrêtée par Daesh avec son enfant. Elle avait été séparée de son enfant et les terroristes de Daesh lui ont proposé un jour un plat avec du riz et puis une sorte de viande. Et après qu'elle ait mangé ça, les terroristes lui ont dit, bah, ce que t'as mangé là, c'était ton fils. On l'a coupé en morceaux. Donc, voyons la broyer. Donc peut-être que c'est fou, hein, peut-être que c'est des conneries. Enfin, en tout cas, je crois qu'elle n'a pas revu son fils. Peut-être que, je ne sais pas, je ne connais pas cette personne personnellement. Mais en tous les cas, c'est parfois de... Alors Daesh n'est pas directement quelque chose de juif, mais on sait que Daesh n'a guère attaqué l'État d'Israël alors qu'il était très très occupé à s'attaquer à l'armée syrienne et à d'autres choses comme ça. Donc comme par hasard, Daesh avait certains objectifs. Ouais.
On va passer au sujet suivant, mais c'est la propagande, c'est ce qu'on appelle la propagande d'atrocité. Hein. C'est-à-dire que vous accusez votre ennemi des pires atrocités pour mobiliser l'opinion publique et pour disqualifier l'adversaire en disant en fait qu'il a quitté en fait il a quitté l'humanité, hein, que sa cause est profondément démoniaque, voilà, et que ses actes le prouvent, ce qui justifie en fait ensuite la plus sauvage répression. Hein, ça reprend bon une.
Ouais, c'est Carl Schmitt avait expliqué ça. Carl Schmitt avait parlé de la guerre juste, comme ça.
C'est ça.
Ce que tu viens de dire. Et juste un dernier mot pour terminer, pour résumer. Ernst Sundel, révisionniste bien connu qui avait été jugé au Canada, avait dit « La Shoah est le bouclier et l'épée d'Israël ».
Absolument. Absolument. Et bon, bah, Forisson, bon là, c'est vrai que ça, on va pas rester sur le révisionnisme, etc. Mais enfin, c'est le point de départ quand même. Hein. On matraque les jeunes Français avec toute une série comme ça d'affirmations, d'assertions, voilà, il s'est passé ça, etc. Et puis en fait, c'est très sommaire, et quand on creuse, on ne trouve pas ce qu'il faut trouver, ou on trouve ce qu'il ne faut pas trouver. Et donc.
Petit mot avant qu'on passe à la suite, sur l'ambiance en elle-même au sein de la classe, parce que bon, là, on a parlé vraiment du fond, les chambres à gaz, etc. Moi, à mon époque, il y a 10-15 ans, quoi. Ce genre de truc-là, effectivement, personne ne remettait en cause, et puis tout le monde écoutait benoîtement les cours sur la souffrance, l'indicible, etc. La génération Z, la génération Zyklon, n'a pas l'air de goûter la propagande caustique. Effectivement, l'internet est passé par là. Dieudonné est passé par là, hein, parce que bon, quand tu vois que les gens sont neutres entre les nazis et Hitler, bon, voilà, il y a eu...
Bon, il faut souligner qu'il y a aussi les Arabes qui sont passés par là aussi.
Oui, non, mais bon, l'Arabe s'endort, tu vois, lui, là, effectivement, il n'a rien à foutre. Mais bon, les Blancs non plus, quoi, ça passe de moins en moins. Et juifs, qui nous écoutaient, hein, ceux qui nous écoutaient de très près, prenez ça en compte. Hein, votre propagande, vous allez encore forcer le trait parce que vous ne savez faire que ça, exagérer jusqu'à l'extrême, ça ne marchera plus. Hein, ça marche déjà moins et ça marchera de moins en moins.
Et un dernier truc, Gandalf, parce qu'il a quand même, ça faisait partie de son message, donc je dis juste à l'auditeur qui insinue que la chrétienté est une invention juive, voilà, pour contrôler les chrétiens. Le monde, l'Occident se fait maîtriser par les juifs depuis qu'il est déchristianisé, quoi. Et il me semble quand même que il faut pas nous-mêmes devenir des juifs et être trop idéologues, et il faut étudier les choses de manière empirique et voir empiriquement comment s'est comporté l'Occident chrétien. Est-ce que vraiment ça a été une bonne arme pour les juifs? L'Occident chrétien a été très sévère à certains moments avec les juifs. Donc voir plutôt ce que l'Occident déchristianisé, lui, sans la peur de l'enfer, machin, lui, qu'est-ce qu'il fait avec les juifs? Bah, il me semble beaucoup plus complaisant. Mais bon, après, voilà, que j'invite à réfléchir là-dessus, parce que bon, ces petites piques, on les retrouve beaucoup dans les messages, ces insinuations. Moi, je les trouve très légères sur le plan factuel, quoi.
Oui, c'est vrai.
Oui, il faut rappeler que sur certaines entrées d'église ou porches d'église, on peut voir des statues représentant la victoire de la chrétienté et la défaite du judaïsme. Hein. Donc, si vous intéressez à l'histoire de l'art, vous cherchez un petit peu. Donc, effectivement, comme dit Astérix, l'église non marxisée, donc c'est-à-dire l'église non enjuivée, le christianisme non enjuivé, n'avait absolument rien à se reprocher vis-à-vis des juifs. Merci, au revoir.
Hugh Trevor Hopper, celui qui est le plus connu pour avoir écrit sur l'Europe du Moyen-Âge, et donc il y a deux pages sur l'ensemble du livre, mais qui sont extrêmement claires, au XIIIe siècle, sur le nombre de pogroms, alors qu'il explique bien que c'est précisément des gens qui... Enfin, l'Église était au centre de la société, et pourtant les Juifs étaient soit expulsés des pays, comme ça a été le cas d'Angleterre, de partout, ils étaient, il y avait des pogroms, etc., quasiment tous les pays d'Europe.
C'est une question complexe, qui nécessiterait un long développement, malheureusement on n'a pas trop le temps. L'attitude de l'Église est ambivalente, elle dépend beaucoup des évêques, elle est aussi très liée à des questions économiques et financières, c'est quand même très très souvent le cas. Donc on note effectivement une défiance une défiance de principe contre les juifs enseignée par l'Église, ça c'est vrai. Mais en même temps, à chaque fois que ça commence à barder pour les juifs, qu'est-ce qu'on voit sortir du bois? Un évêque qui dit qu'il faut les laisser tranquilles. Donc l'attitude de l'Église catholique, en fait, est quand même ambivalente vis-à-vis des juifs. Donc une dénonciation de principe, et en même temps... comment dirais-je, je veux dire, à chaque fois qu'il y a eu vraiment, enfin que le peuple en a vraiment eu assez de comment dirais-je, des menées hébraïques contre eux, enfin, je veux dire les prêts absolument délirants, parce que c'est ça en fait, ils rançonnaient le peuple très très souvent. Quand le peuple commençait à se révolter contre la tyrannie juive, qu'est-ce qu'on voyait débarquer? On voyait des évêques en juivet pour dire oui mais comprenez, ah voilà, ah, le peuple de l'Ancien Testament, machin. Donc bon. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc en fait. Et puis en plus, c'est à nuancer en fonction des époques et des lieux. Donc voilà. Mais c'est indubitable qu'il y avait quand même une défiance très forte, très marquée. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, moi je le constate, aujourd'hui en fait, l'Église catholique s'est considérablement protestantisée déjà. Dans son esprit. Il y a eu toute une série de réformes depuis Vatican II. Ça a commencé avant. Hein. Le philosémitisme a commencé, au XIXe siècle. Vraiment marqué, dogmatiquement. Hein. Il a vraiment commencé à se théoriser dans les années 20, les années 30. À partir de la France, d'ailleurs. Quelques clercs se sont rassemblés pour théoriser cette idée-là, encouragés, bien sûr, par les juifs. Et ça s'est imposé, 30 ans plus tard, dans les années 60, à la faveur de Vatican II, quoi. Ce qui va donner Nostra Aetate, si vous connaissez. Et le fait est qu'ensuite, il y a eu toute une série d'autres mesures qui n'ont rien à voir avec les juifs, mais qui sont des mesures d'ordre organisationnel dans l'Église, où on a donné de plus en plus... On a démocratisé, en fait, l'Église, on a réduit le pouvoir des évêques, et voilà. Et ce besoin, après la Deuxième Guerre mondiale, de complaire aux juifs, de singer le protestantisme dans son aspect démocratique, d'accepter aussi d'ailleurs le libéralisme des États hein, occidentaux, a fait que l'Église catholique a complètement muté. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus être catholique si on n'est pas philosémite. Vous avez qu'à en faire l'expérience, vous avez qu'à voir.
Oui,
que,
aujourd'hui, c'est un fait.
Ouais,
oui,
quand vous regardez...
on peut, mais bon, enfin.
Non, ce que je veux dire, je reformule. Aujourd'hui, si vous écoutez le pape, si vous écoutez les évêques, si vous écoutez des prêtres, si vous même fréquentez certains fidèles, vous allez voir que le philosémitisme... là, je ne parle pas aimer les juifs. Je parle du philosémitisme au sens religieux du terme. C'est-à-dire qu'on vous explique que la doctrine chrétienne, religieuse, donc la vérité divine, suppose d'aimer les juifs, même s'ils renient le Christ. Parce que c'est ça, ils refusent de reconnaître le Christ, hein, par définition. Bon. Et pour eux, ça n'a aucune importance. Et on ne peut pas dire, par exemple, je parle même pas de convertir les juifs, mais de simplement de dire que ces gens-là sont des infidèles qui refusent de reconnaître le Christ. On ne peut pas parler comme ça. On vous incite, il y a des communications, et encore récemment j'ai vu un communiqué officiel du Vatican, il faut lutter contre l'antisémitisme, il faut apprendre, etc. C'est devenu un point central, je veux dire, de la doctrine chrétienne catholique aujourd'hui.
Bergoglio disant les juifs sont nos frères aînés, c'est ce qu'il a dit.
Oui, ça a été formulé même avant lui, etc. Mais maintenant, c'est dogmatique. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des fidèles catholiques, machin. Bon, quand vous creusez un peu, vous découvrez qu'ils sont cul et chemise avec les rabbins et les protestants, quoi. Ils sont tout le temps avec ces gens-là. Et alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais un crochet par là? Parce qu'en fait, aujourd'hui, hein, en 2019, quoi. Hein, je parle pas des deux millénaires précédents. Je parle de maintenant. Aujourd'hui, l'Église catholique est devenu un parti juif. C'est un parti juif au plan idéologique et dans sa façon de se comporter.
Oui, c'est un fait.
Il vous rappelle à l'ordre. Il vous rappelle à l'ordre.
C'est le parti communiste avec une croix. Enfin, il n'y a plus rien qui distingue l'un de l'autre. Quoi. À part le fait que tu... alors il y en a qui vont le dimanche, ils vont dans des trucs, tu vois, ils se rassemblent. Il y a un mec qui joue de la guitare, puis à la fin... On fait des prières pour que les nègres ne se noient pas dans la mer Méditerranée.
Par exemple,
C'est le seul truc, mais à part ça, c'est le parti communiste. Hein, ça...
Voilà. Alors bon, à l'exception, bien sûr, des catholiques traditionnalistes, mais qui sont un peu comme une citadelle assiégée, quoi, je veux dire.
Ouais, alors, peut-être de moins en moins... Enfin, dis-toi bien un truc, c'est qu'ils représentent, je crois, 40% des ordinations de prêtres en Europe.
Oui. Mais, c'est un chiffre qui peut paraître élevé. Ce qu'il y a, c'est que c'est élevé parce que il y a plus d'ordination de prêtres en Europe. Il y en a plus, quoi. C'est-à-dire qu'on importe des nègres hein, pour faire prêtres. Donc, qu'il y ait beaucoup de tradis en rapport à ça, c'est une bonne chose. Mais en termes de dynamique, c'est que dalle.
Ouais, mais ce qui veut quand même dire. Que ça, l'Église peut être autre chose et peut devenir autre chose.
Moi, en toute sincérité, je vois pas comment, après tout ce qu'on a vu depuis 60 ans, on pourrait avoir un reset en disant mais en fait, tout ce qu'on a dit sur les Juifs, tout ce qu'on a dit sur l'islam, notre réorganisation interne, tout ça, c'était bidon. Je vois pas bien, surtout qu'ils ont
canonisé. Qu'un pape soit touché par la grâce du Seigneur.
Ouais, mais il faudra qu'il par exemple ils ont canonisé Jean-Paul II, bon qui a quand même embrassé le Coran, je veux dire, il a quand même été quand même très très loin, hein, je veux dire, dans ces conneries là, l'œcuménisme et tout ça, enfin l'œcuménisme tel qu'ils le comprennent eux, donc qui est un relativisme religieux, on va faire bisou avec les adorateurs de l'oignon, des sectes bouddhistes, on sait pas trop, et il est quand même canonisé, je veux dire, donc à un moment donné. C'est difficile de se dédire dans ce système-là. Et ce qui me fait surtout souvent marrer, c'est que c'est quand même facile pour dire quand même où ils en sont arrivés. Je parle là de l'Église catholique officielle. C'est que ces gens ne passent absolument rien aux catholiques traditionnalistes. Hein.
Ils veulent pas leur parler officiellement, ils peuvent pas avoir d'échange avec eux. Ils sont, c'est oui. Par contre, ils discutent avec les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les hindous, des animistes. Ils font des cérémonies avec, ils reçoivent des prêtres qui viennent d'Asie, de cultes plus ou moins obscurs. Voilà, ils sont reçus comme ça à Saint-Pierre de Rome. Alors eux, il faut les embrasser. La franc-maçonnerie, le Nightbreed, la franc-maçonnerie juive est reçue au Vatican très régulièrement. Hein. Elle a même ses quartiers pratiquement au Vatican, j'ai envie de dire. On sait même que Bergoglio dort sous le même toit qu'un rabbin. Il a confié il y a 2 ou 3 ans que un rabbin avait une chambre dans sa résidence officielle.
Hein, je t'arrête tout de suite.
C'est vrai.
C'est plutôt le rabbin qui héberge Bergoglio.
Oui, c'est vrai. Mais comment dirais-je, ça c'est, alors voilà. Non, par contre, ils peuvent pas parler aux catholiques traditionnalistes. Ah non, on peut pas. Qu'est-ce que ça prouve ce qu'il faut prouver, quoi. Alors maintenant, sur le devenir de l'Église catholique, c'est autre chose, c'est une autre discussion, mais je remarque aujourd'hui que vraiment, si... Enfin, que... Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Église catholique, c'est vraiment du sémitisme mental pur et dur. Alors, je sais que les néo-païens l'ont toujours dit. Ils ont toujours dit, voilà, bah, l'Église catholique, c'est l'importation d'une mentalité sémitique en Europe, etc. Bon. Mais là, aujourd'hui, hein, c'est pas une forme de sémitisme aujourd'hui, c'est du sémitisme juif à 100%, vraiment à 100%. Et c'est un relais très efficace de ce sémitisme. Et on les retrouve sur tous les sujets, je veux dire. Donc voilà. Bon, maintenant, je suis maintenant obligé de suspendre cette discussion, malheureusement, très intéressante. Mais pour passer au sujet suivant, on a quand même pas mal de choses au programme. Ne m'en voulez pas, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Autisme radical, pour notre rubrique numéro 2, les amis. Alors là, c'est plus jovial déjà. Enfin, oui et non. On va parler d'éducation. Éducation des migrants. Alors, c'est le journal La Dépêche qui nous parle de cette affaire.
Des mineurs migrants, hein, il faut préciser.
Mineurs migrants. Une femme de 28 ans a été jugée devant le tribunal correctionnel de Castres ce mardi pour corruption de mineurs. Cette ancienne éducatrice spécialisée échangeait quotidiennement des SMS ambigus avec un mineur isolé d'un foyer dans lequel elle travaillait. Le tribunal l'a relaxé. Là, je cite un des messages. « J'aime beaucoup parler avec toi, mais je ne devrais pas, je suis ton éducatrice et je suis mariée. » Mardi 5 février, une femme de 28 ans, originaire de Toulouse, a été jugée devant le tribunal correctionnel de Castres, donc comme je l'ai dit, pour corruption de mineurs. Les faits remontent au mois de mai et juin dernier, lorsque cette donc éducatrice spécialisée est appelée pour effectuer un remplacement de quelques semaines dans une maison d'enfants à caractère social, MECS, à Groslay. C'est durant cette période que la jeune femme se serait procuré le numéro de téléphone d'un mineur isolé du foyer, âgé de 17 ans, pour lui envoyer des SMS tard le soir. « Qu'est-ce que tu fais? Comment ça va? Bonne nuit bébé chat !» Putain, bonne nuit bébé chat, putain, c'est chaud.
Waouh.
Au fil des jours, les messages ambigus se multiplient, ainsi que les appels téléphoniques, à tel point que le jeune homme vient s'en plaindre au personnel du foyer. Une procédure est alors enclenchée. Est-ce normal d'appeler des jeunes comme ça sur leur portable et de leur donner des petits surnoms, a demandé le président du tribunal à l'éducatrice. Pour moi, ce n'était pas ambigu, c'était dans le cadre personnel, je n'ai jamais eu d'attirance pour lui, a-t-elle brièvement répondu. Peu coopérative à la barre, la Toulousaine au casier vierge, licenciée depuis, a tout de même admis que le premier contact avec le garçon était de son initiative, mais elle n'a pas reconnu la corruption de mineurs. Malgré une relation décrite comme anormale et immorale par le procureur, ce dernier n'a pas considéré cet acte comme délictueux et a requis la relaxe. Une réquisition entendue, puisqu'après délibération, le tribunal a décidé de relaxer la jeune femme. Amour, amour, chers amis, comment... Qui c'est qui a envie de...
Alors, attends, il faut... Bon, il y a quelque chose qui n'est pas indiqué dans l'article, c'est que, c'est que c'est le nègre qui a dénoncé, il dit, putain, mais... C'est-à-dire que la nana, ça devait être une tâche, quoi. Elle devait être absolument immonde. Mais, donc, mariée.
Alors,
c'est-à-dire qu'il y a une espèce. Alors, si ça se passe à Toulouse encore, hein. Voilà, vous connaissez mon amour pour cette région-là. Hein. C'est les races qui s'y trouvent. Particulièrement les races venues s'installer sur place en ayant traversé les Pyrénées.
Non, les Narbonoïdes, déjà, il n'y avait pas besoin de l'arrivée des Espagnols pour qu'ils soient la tâche sur la France.
Ah, attends, allez pas traiter tous les gens qui habitent Toulouse de Narbonoïdes, d'Orives. Bon.
Non, il y a les Espagnols. Les Espagnols. Donc.
Non, c'est pas ça. Je sais pas. Ce que je veux faire observer, moi, j'ai tendance à croire que c'est pas un nègre, en fait. Et je vous dis pourquoi. Parce que le nègre baise absolument n'importe quoi. Peu importe l'âge, peu importe la forme, gros, pas gros, etc. Là, le fait que c'est trop pour le mineur, j'ai tendance
un Marocain,
je sens un petit peu le maghrébin, là, quand même. Je sais pas.
Là, mais... c'est possible. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont un petit peu plus de... Oui, c'est un petit peu plus évolué
bon,
que le nègre.
En tout cas, on peut supposer que c'est clairement pas... c'est pas le cadeau de l'année, la nana, hein, je pense, hein, physiquement
parlant. Oui, alors il y a quand même eu, un connard, tu vois, pour se marier avec, tu vois, parce que tu vois, la nana, amour, gloire et beauté, voilà, et puis là, elle va aider les mineurs isolés. Bébé chat, miaou,
ah oui, qui
miaou.
Bébé chat. Alors bébé chat. Putain,
je ne devrais pas te parler. Je suis marié, tu vois. Putain. Ouais, non, mais je sais pas. Bah oui, je faudrait peut-être la transformer en pâté pour chat, je sais pas.
Ce que j'ai peut-être envie de... La discussion, je vais peut-être soulever un point, je vous demande de réagir. Est-ce qu'on voit pas quand même que finalement toutes ces pétasses qui se bousculent là pour essayer d'aider, machin, les migrants, sont quand même motivées par autre chose, consciemment ou inconsciemment? Là, plutôt consciemment, d'ailleurs. L'accueil des migrants, il n'est pas inintéressé, visiblement. Hein.
Ah bah, l'hypergamie est au cœur de cet appel de migrants. Hein. C'est un appel d'air, mais l'appel d'air, on sait d'où il vient. C'est les fesses qui font bravo, quoi, hein, qui appellent tous ces nègres par millions. Quoi.
Ouais, enfin bon... Se mettre avec un nègre, je vois pas en quoi c'est hyper gamme. Parce que se mettre avec un nègre, c'est avoir la quasi-certitude d'avoir à élever tes mômes toute seule au bout de seulement quelques années.
Bah, y a une forme d'hypergamie en ce sens que c'est l'idée d'accroître la compétition entre les mâles pour déterminer lesquels sont bons, lesquels sont pas bons. Mais ça, c'est dans les grandes lignes. C'est dans les grandes lignes, je veux dire, l'appel à ouvrir les frontières, à ouvrir les frontières à l'immigration de masse pour des jeunes venant d'Afrique, c'est clairement pas inintéressé. Après, c'est pour en augmentant comme ça la masse du nombre de mâles, eh ben il y a évidemment une augmentation de la demande pour une offre qui reste stable, donc le prix de, enfin la valeur de chaque femme augmente. Voilà, c'est comme ça que c'est perçu inconsciemment. Après, quand elle se jette au pied d'un nègre en question, évidemment, c'est pas parce qu'il est en mesure d'offrir un statut. Là, on va rentrer sur d'autres choses, donc toujours par appétit sexuel, mais à mon avis, des trucs très, 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 très glauques. Là, si c'est les mineurs, là, on est quand même sur des gros problèmes de relations à la maternité, etc. Enfin, c'est quand même très, très, très glauque. Hein. Pour moi, on est dans une forme d'inceste par procuration. Ça me rappelle d'ailleurs un peu Brigitte.
Ouais, de la zoophilie aussi un peu. Enfin, c'est entre tout. C'est un croisement de toutes les perversions, quoi. Et puis.
Dans ce cas précis.
Un peu de masochisme, un peu de zoophilie, un peu de pédophilie, un peu de. Et donc, quelqu'un un jeune nègre de 16 ans.
Captain, peut-être dire quelque chose, ou Magda, qui veut sur cette éducatrice, peut-être faire de l'éducation
salope.
Sexuelle.
salope, voilà.
Non, mais c'est vraiment...
J'ai tout dit, donc... en fait, bon, quand on parle d'hypergamie, il faut se rendre compte aussi qu'il y a des choix qui sont conscients et d'autres qui sont inconscients. Effectivement, la nana qui plaque son gars pour sortir avec un mec qui touche 4000 euros de plus ou qui a une Ferrari, le choix, il est conscient, bien sûr. Quand t'as une connasse qui se met avec un mec qui lui tape sur la gueule, mais qui est bad boy, viril, indépendant, machin, tout ça, c'est inconscient, mais le mec display une forme de domination en fait. Bien sûr, le mec généralement il va pas être cadre à la Banque de France ou secrétaire d'État, mais c'est une forme d'alpha quoi.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce cas-là? Bon, on sait que les Maghrébins, et, bon, surtout les Nègres, mais les Maghrébins aussi, sont un petit peu plus en avance physiquement que les Blancs. Je connais pas le physique du type. Peut-être que le mec avait des qualités physiques qui faisaient que... Il y a des femmes hein, qui trouvent que les jeunes de 17 ans peuvent être beaux, peuvent être musclés, selon machin. Donc, peut-être qu'il y avait une attirance physique. On met des jeunes femmes, parce que 28 ans, c'est encore jeune, plus ou moins jolies, dans des situations dans lesquelles elles sont en situation d'autorité sur des adolescents en pleine crise de testostérone, en fait. Et après, on s'étonne qu'il y ait des professeurs féminins ou des éducatrices et compagnie qui développent des relations ou qui essaient de développer des relations avec ces jeunes gens. Donc, si on veut... Mais bien sûr, l'inverse est vrai. Je veux dire, quand on est un professeur de 25-28 ans et qu'on a des lycéennes de 16-17 ans en face de soi, on peut bien entendu les séduire également, puisque non seulement il y a la position professeur, donc dominant, élève, dominé, qui en plus est renforcée par la féminité. Hein. Les femmes aiment être dominées, ont besoin d'être dominées. Donc... Est-ce que la solution, ce serait pas tout simplement de coller des mecs avec des jeunes adolescents masculins et des gonzesses avec des jeunes adolescentes féminines, hein?
Est-ce que la solution, c'est pas d'empêcher les nègres de venir s'établir pour ensuite les livrer à des animatrices?
Oui, mais ça va plus loin que ça, parce que par exemple...
Oui, ça va plus loin que ça, ouais.
Auparavant, parce que auparavant, on avait quand même l'école qui était non mixte, et je pense que l'école mixte est aussi un des facteurs qui explique la chute du niveau scolaire en France. Parce qu'effectivement, quand t'as 17 ans, entre 15 et 17 ans, à quoi tu penses? Bah, tu penses aux gonzesses. Donc, si t'as des gonzesses dans la classe, forcément, t'es un petit peu moins concentré sur tes cours. Parce qu'il faut, faut les regarder, faut essayer d'attirer leur attention, machin et tout. Et pareil pour les filles d'ailleurs. Donc, c'est un cas assez intéressant, puisqu'en fait, au-delà du symptôme de la connasse mariée qui a des problèmes ou pas dans son couple, qui va donc soutenir l'immigration massive pour faire augmenter sa valeur en tant qu'individu, il y a aussi tous les rapports hommes-femmes et les rapports enseignants qui sont incriminés là-dedans, quoi.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Ouais, il nous faut une charia blanche tout de suite. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire.
Je parlais de Brigitte Macron, mais c'est ça. Hein. Enfin, Emmanuel Macron n'est pas un migrant, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Hein. Enfin bon, non mais quand vous voyez toutes ces groupies là qui se jettent au pied des bambous là, moi on reçoit quand même pas mal de témoignages, hein, donc on peut pas tous les citer, mais j'ai encore une personne qui en parlait, citant un château juste à côté de chez lui qui avait été rénové et qui accueillait des nègres clandestins. Des nègres ou des arabes, je ne sais plus, enfin des clandestins, et il disait que tous les week-ends c'était le même spectacle avec des jeunes blanches qui arrivaient pour torcher le cul de ces nègres, c'est-à-dire comment dirais-je, leur apporter du McDonald's, vous savez, des grands sacs de McDonald's pour les mains. Voilà, ça les divertissait, ça les intéressait, c'était ça leur truc. Et évidemment, ces nègres et ces arabes qui se prélassaient dans le parc donc de ce château, enfin c'est quand même incroyable, ça lissait tout, et il y avait ces blanches qui passaient leur week-end, enfin qui, sur leur temps libre, quoi, à nettoyer le parc, parce que les autres étaient trop feignants tenir l'endroit dans l'état dans lequel ils l'avaient trouvé, quoi. Donc, si elles viennent là, elles sont intéressées, si vous voulez.
Ouais, enfin, t'inquiète pour elles, quand elles auront un bonhomme, elles lui expliqueront bien clairement qu'il faut qu'il participe aux tâches ménagères.
Donc, c'est ça, c'est... Non, mais c'est ça le truc, c'est-à-dire que... Mais le truc, c'est qu'après, à la baraque, je suis sûr que, enfin, si jamais ces greluches avaient des mecs, je suis sûr qu'elles refusaient même de faire la lessive, quoi. Donc,
ouais, ouais, petit truc un petit peu, parce que c'est vrai que c'est la mode, quoi. En fait, ces gens se dévouent corps et âme, tu vois, au bien-être du. C'est pas le bien-être du soldat israélien, la psy, hein, je sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est le bien-être du migrant, du nègre. Tu vois. tu as, là, j'ai vu ça là, cette semaine. Je crois que c'est sur Nantes. Vous savez, il y a les frais d'inscription pour les étudiants étrangers là qui sont mis en place
ouais.
Dans les universités. Et tu as des timbrés qui font des grèves de la faim parce que en solidarité avec les nègres qui ne vont pas pouvoir venir, tu vois. C'est voilà où en sont ces gens. C'est-à-dire qu'ils donnent la nana à l'autre, elle va carrément, elle va agresser le métèque. Pour le violer quasiment. Et ouais. tu as d'autres qui vont se laisser crever littéralement parce que y a quelque part un nègre ne va pas pouvoir venir faire son nègre en France. C'est délirant.
Bah là le cas que tu donnes là pour Nantes, là c'est vraiment un cas d'altruisme pathologique, hein. Là c'est ouais, vraiment ouais. La phase finale c'est vraiment final parce que tu me dis ils font la grève de la faim.
Ouais, ils font la grève de la faim, vraiment... ouais, c'est ça. Ouais, bah si alors et bon, quelque chose me dit là, je sais pas, ils sont un petit groupe, une dizaine. Je
découvre, je ne connais pas.
Sur la dizaine, si tu veux, tu dois avoir j'ai pas de précision, mais je pense que tu dois avoir au moins 8 qui sont des femmes.
Hein. C'est ça. Bah écoutez, moi j'ai déjà dit ça, mais il faut le répéter, je pense qu'il faudrait tenter une expérience à grande échelle qui est d'ouvrir grand les vannes de l'immigration féminine d'Europe de l'Est. Vous voyez, je serais très partisan de faire ça, mais à des fins purement pédagogiques. Donc voilà, j'imagine bien un grand programme, voilà, et là, à mon avis, vous verriez des manifestations pour exiger la fermeture immédiate des frontières. Vous seriez très surpris, et vous seriez d'autant plus surpris que les clients et les clienteux qui revendiqueraient la fermeture des frontières seraient les mêmes qui appelaient à les ouvrir pour faire venir Mamadou et Karim. Je vois ça d'ici, mais je serais très demandeur d'une expérience comme ça. Ah ouais, vraiment. Alors les amis, je vous propose de passer à la rubrique numéro 3. Captain voulait rajouter un petit truc avant qu'on passe à la troisième rubrique.
Ouais, donc en fait, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes. Souvent, les gens qui se comportent comme ça, c'est notamment par envie de display, donc de faire voir aux autres qu'ils sont meilleurs. C'est-à-dire, je te suis supérieur parce que je suis dans la charité, j'ai une position morale qui est supérieure. Et on l'oublie très souvent, mais les Européens ont vraiment besoin de ça, de se sentir en fait moralement juste. Donc avec toute la propagande qu'il y a, machin et tout, forcément, le débouché, c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui, par exemple, ont raté quelque chose professionnellement parlant, ou dans leur vie, dans l'éducation de leurs enfants, et essayent de se rattraper, en fait, en essayant d'aider ben, justement tous ces nègres. Il y a quelque chose d'autre aussi, c'est-à-dire que on l'oublie assez fréquemment, mais il y a 100 ans de cela, la société était encore très largement paysanne, les conditions de vie n'étaient pas forcément hyper faciles. Bon, alors bien sûr, on n'était pas en Afrique, mais nous étions encore dans des sociétés qui n'étaient pas celles que nous connaissons aujourd'hui, avec la luxuriance, avec toute la débauche technologique que l'on peut connaître, en fait. Vous prenez par exemple les années 20-30 aux USA, c'est la crise économique, c'est une catastrophe, bon, genre de choses. Et en fait, pourquoi je viens là-dessus? C'est parce que quand vous avez des conditions de vie qui sont difficiles, vous vous préoccupez de quoi finalement? De votre survie. Mais en fait, nous ne sommes plus en Europe dans la survie. Enfin, malgré que des gens sont encore dans une situation économique compliquée, on ne peut pas comparer ce que nous vivons avec ce qu'ont vécu nos aïeux il y a 100 ans. Quoi. Donc finalement, tout ce surplus d'énergie
ou cette envie de faire quelque chose en fait de positif, eh bien il faut qu'il trouve un échappatoire. Et quel échappatoire il y a de nos jours ? Bah malheureusement il n'y en a pas beaucoup, et notamment bah, justement ce qui est sanctionné par la société, c'est d'aider les nègres et les bougnoules à venir nous envahir. Voilà, donc je pense que c'est à la fois un problème philosophique, à la fois un problème psychologique et à la fois un problème sociétal. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut absolument avoir un programme spatial de grande envergure pour envoyer dans l'espace tous les gens qui ont envie de faire des choses pour la cause, pour l'humanité.
Mais ça c'est un point intéressant que tu soulèves, sur lequel j'ai envie de te suivre. C'est que, pour moi, hein, le principe de l'accueil des migrants, comme ils appellent ça, hein, ou de l'ouverture à l'immigration, mais surtout de ce qu'ils appellent les migrants, pour moi, c'est une proposition profondément féminine. Alors, symboliquement, permettez-moi cette image, mais c'est vrai, c'est une pénétration.
La femme reçoit, l'homme émet. Ouais. C'est le haut est comme le bas, en fait. Et mentalement et sexuellement, la femme est réceptrice et l'homme est émetteur. C'est pour ça que même dans les traditions spirituelles, les femmes reçoivent des informations, mais elles ne sont pas habilitées à prêcher.
Voilà, elles peuvent faire de la divination, ça c'est vrai. Elles peuvent être un vecteur de communication, enfin, sauf quelques cas très précis quand on parle de prêtresse, bon, ça... bon là on rentrera dans une autre discussion, mais je veux dire fondamentalement c'est quand même ça la symbolique, hein. Donc l'immigration, les migrants qui arrivent pénètrent le territoire qui lui est passif, donc il y a le mouvement qui est fait par les migrants et le territoire qui est censé accueillir, être ouvert, il doit être ouvert à la pénétration. Donc déjà quand on est dans la symbolique, ça nous dit quelque chose. Ceux qui défendent cette position, moi je vous le dis, ce sont des gens qui sont passifs, féminisés, ou qui ont des tendances homosexuelles. Est-ce que c'est surprenant, dans des sociétés occidentales, féminisées, où enfin l'homme s'est dévirilisé, si vous voulez, alors soit qu'on l'ait aidé, soit qu'il ait perdu de son énergie lui-même, bon ça c'est un point. Mais bon, c'est vrai, où les homosexuels, surtout le lobby homosexuel, joue un rôle énorme dans la machinerie médiatique, et pour ne même pas parler du facteur juif, donc du facteur judéo-cosmopolite, hein, qui encourage de toute façon à l'affaiblissement des races que les juifs cherchent à dominer. Donc, moi, je vois ça là-dedans. Je ne vois pas du tout, l'accueil des migrants comme une proposition masculine. Pas du tout, quoi. Pas du tout. Et en plus, quand on voit ensuite ceux qui sont effectivement c'est dans la rue avec des pancartes pour militer, pour machin, ou qui vont leur donner de la soupe, etc. Moi, je vois jamais des mecs virils, des profils de prolétaires. Non, je vois toujours les mêmes bonnes femmes de la fonction publique, souvent retraitées, 2-3 minets à demi pédés. Visiblement.
Oui, des espèces de white knight aussi, des fois.
Ouais, mais...
Oui, ou des vieux, quoi, des vieux boomers, ouais, les vieux profs à la retraite.
Voilà. Et ça, ah, ça doit dire
quelque chose. Avec les colliers de Ménac, là.
Et ensuite, il faut aussi souligner un autre truc. Les arguments invoqués par ces gens-là, dont parlait un peu Captain, quoi, hein, dit, ils évoquent la moralité. C'est très intéressant, ça, la moralité. Parce qu'en fait... Ce que disait un petit peu Captain, enfin un des éléments de ce qu'il disait, c'était que c'est socialement valorisant. Ou disons plutôt, c'est socialement valorisé d'être pour l'accueil des migrants.
Oui, dans la société féminine, voilà. Suivre l'ordre...
Dont on vient de parler.
Suivre l'ordre vaginocrate incitant à mener plus de concurrence entre les
mâles.
Effectivement, oui, c'est valorisé, tout à fait.
Voilà.
Ça ne peut pas être comme tu dis. Hein, c'est pas bon. Ça serait étonnant que ce soit un caractère masculin, puisque tout ce qui est rapport avec l'homme blanc. En France et en Occident en général, et fermement condamné,
combattu,
hein, donc que ce soit par le lobby des fiottes, que ce soit par la politique en général, tout. Hein.
Le lobby juif, hein, voilà, oui. Avec pour racine Auschwitz, on en parlait, hein, c'est ça, hein, voilà, l'homme blanc Auschwitz. Et il est coupable,
envie,
hein, il est.
J'ai même envie de te dire, les boomers aussi, c'est-à-dire que si tu, oui. Ces boomers-là reposent, hein, leur train de vie suppose que nous continuons à payer les retraites qu'ils ont méritées, tu vois. Donc, oui. Tout, oui. Absolument tout est fait pour nous pomper, quoi, pour nous pomper ce que nous produisons, le fruit de notre travail. On a des gens je pars chez nous, tu sais, qui se disent ouais non mais quand même les allocations et tout, tu vois, le système machin, non, l'allocation c'est le parasitisme. Regardez une fiche de paye, ce que vous touchez en net par rapport à ce que l'entreprise débourse pour votre salaire, vous prenez peur, hein, c'est délirant. Tout ce que vous ne touchez pas, ça sert, voilà, ça sert à entretenir les parasites, les nègres, les boomers, etc., etc., etc.
Ah ouais, on paye tout le temps. Hein. C'est Charles Prats, spécialiste de la fraude fiscale, l'a dit récemment. Des fois, les gens se disent, ah oui, est-ce qu'on doit payer des impôts ou pas? Non, mais vous payez de fait à chaque moment l'essence et tout. Et puis entre, si vous touchez 100, l'entrepreneur doit payer 150, vous avez touché ses 100, vous laissez une partie en charge, après vous avez les impôts sur le revenu, les impôts locaux, les machins, les trucs, c'est sans... la TVA, quand vous consommez, c'est sans fin.
Bah, l'État-providence, Ah, oui, je voulais enchaîner par rapport à ce que voilà. Tu disais, mais je voulais... L'État-providence, c'est l'état du maternage, hein, je veux dire. Regardez, quand je suis dans la symbolique, c'est ça, c'est état-maman. C'est état-maman. C'est pas tellement état-papa, hein, c'est état-maman. Je vais donner à manger. Alors, pour revenir à ce que tu disais, je parlais de le fait que ce soit socialement valorisé. Je voulais revenir sur le caractère moral. En fait, effectivement, ils utilisent une morale qui est assez établie, en fait, une morale chrétienne, en réalité. Hein. Bon, voilà, il faut être charitable. Faut défendre le faible, l'opprimé, donc c'est la valorisation du faible et la valorisation de celui qui aide le faible. Mais pour moi, c'est profondément hypocrite. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, globalement, on a toujours la morale de ses intérêts. Bon, je crois que j'ai décrit, je sais pas si j'ai raison, mais je pense que j'ai raison. J'ai décrit à peu près de quoi, enfin, quels sont les fondements de cette morale actuelle, hein. On a parlé des réseaux, hein, tout ce qui, mais que c'était profondément féminin. Et je crois que c'est une morale intéressée. Et intéressé notamment sexuellement. Mais c'est une façon d'accuser l'homme blanc qui voudrait défendre, comme on dit en anglais, son turf, hein, défendre son territoire. C'est-à-dire que si vous dites, il y a un principe de territoire, je veux exercer mon autorité sur mon territoire, c'est-à-dire je veux exercer le contrôle sur mon territoire. Donc je ne veux pas que des mâles prédateurs viennent me voler mes femmes. Là, vous voyez les femelles dont on a parlé qui sont très intéressées par l'accroissement ou l'intensification de la compétition, vous blâmez. Mais elles ne vont pas blâmer en disant « Excuse-moi, moi j'ai envie de baiser avec des métèques. » Parce que si elles le faisaient comme ça en place publique, certaines le font probablement, mais je veux dire, c'est pas moralement valorisant.
C'est pas encore moralement valorisant. Pas encore.
C'est-à-dire que c'est pas valorisant. Donc il faut utiliser des arguments qui soient à caractère affectif, mais surtout qui soient raccord avec cette représentation collective de la valeur de la victime. Donc, elle peut pas dire, voilà, moi j'ai envie de jouir, etc. Elle ne peut pas se présenter comme... ces gens-là ne peuvent pas se présenter comme des hédonistes qui veulent utiliser les migrants comme un moyen de satisfaction personnelle, de jouissance personnelle. Ça serait mal vu. Donc, on utilise la corde de la charité. Mais en réalité, il y a toujours un intérêt. Ceux qui prennent la défense, que ce soit le patronat, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, c'est caricatural, quoi. C'est-à-dire, quand il y avait eu, je sais pas, rappelez-vous la polémique il y a quelques mois, on a vu le grand patronat de l'industrie de l'hôtellerie-restauration qui a dit nous on veut des migrants. Donc, eux ils ont un intérêt qui est très clair, ils veulent des migrants. Vous avez les bonnes femmes, les féministes qui haïssent l'homme blanc, donc pour elles, si c'est marron et que c'est masculin et que ça affaiblit l'homme blanc, c'est bon. Voilà. Mais c'est jamais dit comme ça. D'où l'instrumentalisation en public de cette morale humanitaire dont a parlé Captain. C'est ce que je voulais dire, quoi.
Mais
c'est tout à fait vrai.
Aujourd'hui, c'était la défense du faible qui était l'enjeu et que les gens étaient conscients de qui est faible aujourd'hui, ça serait tous les petits blancs de 10 ans, 11 ans qui se font victimiser en zone urbaine, qui sont complètement isolés, qui peuvent même pas porter plainte, qui peuvent rien faire. Aujourd'hui, les plus faibles de la société, les plus délaissés, qui n'ont même plus de famille, qui n'ont plus rien, ce sont les fils de gauchistes, de banlieues parisiennes, qui ne peuvent même pas dire à leur mère qui sont leurs bourreaux, qui ne peuvent. Ça doit vraiment être un vrai cauchemar. Et là, faut faire preuve de vraie bonté, de vraie bonté, et aller vers les gens qui souffrent réellement, quoi. Donc là, c'est toute la fausse bonté. Parce qu'à un moment, je crois que t'as dit qu'il y avait eu un peu de morale chrétienne là-dedans, quoi, à savoir aider les faibles. Sauf que les nègres qui arrivent sont absolument pas faibles, quoi. Faut les voir, quoi. Ils font tous 80 kilos, ils ont 20 ans, ils sont en pleine force de l'âge. Donc en fait, il y a une hypocrisie énorme là-dedans, quoi. Ils représentent absolument pas la faiblesse, la victime, ni rien, quoi.
Le problème, c'est la réalité versus les représentations. Et dans les représentations mentales de ces gens-là, le blanc n'est absolument pas une victime. Le blanc est omnipotent et le blanc ne risque absolument rien. Donc c'est pour ça que ces gens-là ne comprendront jamais qu'en fait, nous sommes collectivement victimes d'un processus qui mène à notre destruction.
Dans ce que tu dis, moi, il faut préciser, c'est... Bien sûr, pour les halogènes, les femmes blanches, les hommes blancs, c'est presque kiff-kiff. Mais je dis presque, parce que pour les halogènes, les femmes blanches, c'est un butin. Faut pas l'oublier. Donc, et en fait, il s'agit bien de détruire l'homme blanc. La femme blanche, elle sera détruite, si vous voulez, mais dans un processus, je veux dire, en théorie, hein, et dans les représentations qu'ont les mâles marrons, elles seront détruites, si vous voulez, par métissage, voilà. Enfin, après avoir été kidnappées après la guerre raciale victorieuse, voilà, elles seront mariées de force avec des mâles marrons et voilà, elles disparaîtront génétiquement, si vous voulez, de cette façon. Mais il n'y a pas l'intention de les détruire physiquement, au sens propre du terme. Alors que l'homme blanc, c'est très clair, quoi. L'homme blanc, on veut le liquider. Il n'y a pas de projet dans la société future pour l'homme blanc. Sa présence n'est pas du tout tolérée ni tolérable. Il doit complètement disparaître physiquement. Les blanches ont vocation à faire ce que j'ai dit, quoi. Et elles le savent. Alors, je ne dis pas toutes les femmes blanches, attention. Hein. Je dis les femmes blanches qui ont un tropisme migrantophile, si vous voulez. Voilà.
Ouais. Oui, qui ont décidé de jeter leur génétique, leur héritage à la poubelle.
En fait, voilà. Ce que tu décris, c'est tout simplement ce qui s'est passé durant la révolution de Haïti, hein, dans le 19e siècle, lorsque les esclaves qui s'étaient échappés et avaient donc rejoint les montagnes sont redescendus dans la ville, donc les nègres marrons, comme on les appelle. Hein. Ils ont reconquis toute la ville sous le regard de l'armée espagnole qui n'a pas bronché. Et en fait, ils ont violé les femmes devant les maris, ils ont tué les maris devant les femmes, et ensuite ils ont dit aux femmes, maintenant, soit t'acceptes de prendre pour époux un nègre, soit on te tue. Voilà.
C'est
et,
ça.
Et ben, certaines ont fait le choix de continuer à vivre en étant l'épouse d'un sale nègre. Voilà. Donc je dois aussi rappeler le caractère humiliant que cela a pour un groupe donné de voir ces femmes être capturées par un groupe adverse. Donc non seulement nous sommes humiliés lorsque nos femmes sont prises, conquises par des nègres, et ils nous le font bien savoir, vous avez qu'à regarder la gueule patibulaire qu'ont ces nègres et autres babouins qui se déambulent avec une blonde à leurs bras, qui vous regardent, ils vous le font sentir. Moi je l'ai déjà, j'ai déjà vu, hein, j'ai déjà senti. Voilà, on est humiliés parce qu'ils prennent nos femmes, nous on va disparaître par la violence, hein, il y a déjà pas mal d'entre nous qui ont déjà passé l'arme à gauche, et les putes qui acceptent de se maquer avec des bicots ou des nègres, ben elles se dilueront directement, tranquillement dans le caca, voilà.
Petit exemple, ça va dans le sens de ce qu'on dit, mais là on parlait des nègres, tu as parlé du cas des nègres marrons, la chose en fait c'est aussi théoriser, enfin je théoriser, c'est même c'est un commandement divin puisque c'est le Coran quoi, hein, en islam, tu as le bon, par rapport aux unions mixtes, tu vois, un musulman peut très bien prendre pour épouse une non musulmane et lui faire des gosses tant qu'il veut. L'inverse n'est pas vrai. L'inverse est totalement proscrit. La conquête, là c'est une religion de combat, quoi, l'islam. Hein. C'est clairement inscrit là-dedans. Et bon, le fait que tout ça soit toléré, accepté, bon, ça va dans cette logique, bien entendu.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, c'est cohérent, puisque un homme musulman peut avoir jusqu'à 4 épouses. Alors, c'est pas le tout de pouvoir les avoir, il faut pouvoir les entretenir, oui, aussi. Hein. Il y a ça qui va avec. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que tous les musulmans ont 4 épouses pour des raisons démographiques élémentaires, bien évidemment. Mais c'est quand même un encouragement à la conquête sexuelle.
Bien sûr.
C'est que le djihad a une dimension sexuelle, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, pourquoi ils disent. En fait, ce que disent jamais les musulmans, ils n'aiment pas trop qu'on parle de ça. Hein. L'islam se transmet par le sang. Alors quand on dit ça, ça paraît énorme, parce qu'on a des représentations religieuses. Mais non, très concrètement, c'est ce qu'a dit Derek, c'est-à-dire qu'en fait, le musulman qui épouse une non-musulmane, l'enfant de cette union, sera musulman, de facto. Il sera considéré comme musulman par les musulmans. L'inverse n'est pas vrai. Donc, en islam, l'islamité, si vous voulez, se transmet par le père. Ça, c'est typiquement la démonstration que c'est une religion de conquête. Ça a été très bien pensé, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, on va envoyer nos soldats dans des territoires hostiles, on va liquider l'armée adverse, et ensuite, nos gars, ils vont bien avoir besoin de femmes, et ils vont les prendre sur place. Et ensuite, ils vont s'établir comme la nouvelle classe dirigeante, quoi. Et c'est quand même, et c'est en ça que cette religion, quand même, elle est conçue pour l'expansionnisme, parce qu'elle comprend les besoins élémentaires, je veux dire, enfin, vraiment, là, quand je dis élémentaires, c'est même les besoins primaires. Des hommes, quoi. Donc, surtout dans les sociétés les moins raffinées, c'est
oui,
moins sophistiquées.
Dans les peuples de la péninsule arabique.
Voilà, c'est ça. On leur dit, voilà, on va aller prendre les femmes là-bas. Et c'est vrai que c'est un formidable appel. On dit Dieu, c'est Allah. Allah va t'offrir des femmes.
Tu sais, le type, il était là, il était en train d'enterrer ses filles, tu sais, dans le sable. Et, tiens, Coco, tu peux aller là-bas, là, à 3000 bornes, et puis tu vas baiser des nanas, tu vas voir, ça va être génial.
Voilà, et l'État islamique, c'est pour ça, moi, ça me faisait marrer les débats, est-ce que l'État islamique, le Daesh, comme on dit, quoi, était musulman ou pas? Bien sûr, évidemment. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a plusieurs phases dans l'islam, c'est-à-dire que, évidemment, l'islam conquérant n'est pas l'islam de l'administration et de la gouvernance. Il est évident que les territoires musulmans depuis des siècles ne vont pas avoir, si vous voulez, le même élan révolutionnaire que des premiers temps de la conquête islamique au 7e ou au 8e siècle, c'est tout à fait entendu. Hein. Mais, et c'est ça le phénomène intéressant avec l'État islamique, c'est que c'est une tentative de reconquête intérieure du monde musulman par les tenants de la renaissance islamique. C'est bizarre, hein, c'était une reconquête intérieure. Elle n'était pas tournée vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. D'où l'appel à la hijra, etc. Mais pour mener le djihad. C'est marrant, hein. Comment c'est fait, quoi. Et il y avait cette dimension-là, c'est-à-dire que les guerriers de l'État islamique, eh ben, on leur promettait des femmes. On promettait des femmes, bien sûr. Voilà. Bon, s'écarte un peu, mais je ne vois pas comment on pourrait s'intéresser au fonctionnement des sociétés ou même des thématiques comme l'immigration si on ne voit pas la dimension sexuelle, de ceux qui font les sociétés, c'est-à-dire les hommes et les femmes, et leurs besoins ou ce qu'ils expriment, quoi, comme besoin. Bon.
Alors, tous les chemins... Et tous les chemins mènent au vagin.
Ouais. En fait, quand tu abordes ce sujet précis, qui est celui de l'application de la biologie à la politique, si tu dis ça à une femme française, elle te fera signifier qu'en fait, tu es un frustré sexuel. Essaye, hein. C'est automatique. Si tu tiens un discours qui applique un minimum de psychologie évolutive, elle te le fera signifier, tu es un frustré sexuel.
Alors,
si tu dis ça, c'est parce que tu n'as pas accès aux femmes.
J'évite de parler de politique avec des femmes parce que c'est stupide.
Ouais, tout à fait.
C'est, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Non, mais des... effectivement. Non, mais quand
on peut parler de plein de choses avec les femmes, mais je veux dire, parler de politique, moi, ça me paraît être une erreur.
Oui, hein. Oui, il ne faut pas parler de politique. On peut balancer des insultes aux nègres, aux juifs.
Non, on peut parler de choses de tel ou tel, enfin, d'autres sujets, mais politique avec les femmes, non. Parce que je vais pas être méchant, mais elles comprennent pas. Elles comprennent pas.
Donc, mais c'est pour ça qu'elles ont. En fait, on dit souvent que les femmes ont une capacité d'adaptation aux environnements nouveaux qui est plus forte que ceux des hommes. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que une femme, lorsqu'elle arrive dans un groupe nouveau, un groupe social qu'elle ne connaît pas, elle est acceptée parce que c'est un ventre. C'est juste ça. Alors qu'un mec n'a rien à porter, c'est une paire de couilles. Donc forcément, on ne va pas les accepter de la même façon.
Oui, c'est qu'est-ce que tu as... Oui, parce que la femme est un bien de consommation, entre guillemets, historiquement, alors que l'homme est un consommateur. Et on a pas... Alors quand vous avez... Bah, c'est simple, hein. S'il y a des consommateurs quelque part, ils n'ont pas envie qu'il y ait plus de consommateurs, parce que sinon la part du gâteau se réduit, hein, c'est fatal. Donc plus il y a de gâteaux qui arrivent, donc les femmes, ah bah c'est bien, ce qui donne, hein, enfin très concrètement, hein, je veux dire, dans les boîtes de nuit, hein, entrée gratuite pour les femmes. Bon, c'est pas de la charité, hein, c'est pour attirer le chaland, et le chaland c'est la femme. Enfin non, comment dire, le chaland c'est les hommes, et il faut bien les appâter avec quelque chose, donc on fait venir les femmes gratuitement. Enfin, personne, c'est marrant que c'est pas été interdit, ça devrait être considéré comme une mesure sexiste, un truc comme ça devrait être interdit en France, non? Et pourtant c'est très toléré, c'est curieux. Hein,
bah, peut-être parce que le business des boîtes de nuit est tenu par les juifs et la mafia, je sais
pas. Pas que, hein.
En Allemagne, il y avait une affiche comme ça qui était assez célèbre. C'était à Kiel, je crois, dans le nord de l'Allemagne. Il y avait une affiche 40 boissons gratuites pour les femmes. C'était la question, c'était de savoir est-ce que parce que les mecs sont moches ou.
40, ah oui, quand même, c'est.
Bon, moi, voilà. Je voulais juste dire un petit truc, c'est que la force de l'islam, c'est aussi sa limite, parce que quand tu donnes trop. Quand tu satisfais la libido à son niveau sur le plan animal, ben tu n'as pas l'occasion de la sublimer, et du coup ben, ça te donne tu sais la gueule du vieux connard qui vient de baiser, ben c'est la gueule de l'élite musulmane, quoi, parce qu'ils ont 4-5 femmes à satisfaire, donc en gros ils font que de niquer, quoi. Et ce qui a fait la force de l'Occident, c'est que même nos élites, par le mariage monogame, sont en fait en manque, ont une libido qui ne peut pas être assouvie sur le plan animal et qui donc est sublimée. Et c'est ça qui fait qu'on a brillé de mille feux, c'est qu'on a sublimé notre libido pour en faire autre chose. Alors que le musulman, bah, c'est un gros bédouin qui fourre sa grosse, quoi. Donc ça.
Ouais. Je crois que Louis XIV n'a pas eu le mémo, hein. Faudra lui dire d'arrêter les maîtresses.
Napoléon disait qu'un homme à femme est un petit homme, tu vois.
Pourtant, Napoléon, il se défendait assez bien dans cette partie-là. Hein.
Oui, mais bon,
non, je pense que je dis.
Non, c'est pas trop ça. Je pense que quand il parle d'homme à femme, il veut dire l'homme qui ne pense
voilà, le séducteur, le dragueur,
le dragueur pathologique pour qui, voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Je pense qu'il faisait pas mention d'un homme qui peut avoir un certain succès avec les femmes. Et non, je pense qu'il voulait dire celui qui est vraiment, dont le but dans la vie, c'est de séduire les femmes. Voilà, je pense que c'est plus ça qu'il voulait dire, à mon avis.
Non, la libido est 100% orientée vers la
c'est
femme.
C'est ça. Ouais. C'est ça, oui, c'est ça, totalement. Ouais. Ouais. Bah, il avait raison. Bon, c'est un grand esprit, Napoléon. C'est con de le dire, mais c'est vrai. Toujours un très bon sens de l'observation. Alors les amis, je vous propose de passer à la rubrique numéro 3, le droit tard de la semaine. Touche un peu plus légère. Et vous allez très vite savoir de qui il s'agit. Un septuagénaire a nié l'existence des chambres à gaz dans un train à l'audience en Belgique. Je cite DH.net qui relate cette affaire. Je cite l'article. Donc, alors qu'il se trouvait dans un train circulant entre Nivelles et Bruxelles le 24 avril 2018, un policier en civil a vu qu'une autre passagère semblait importunée par le discours que lui tenait son voisin septuagénaire. Et pour cause. L'homme expliquait qu'Hitler avait finalement raison, qu'il avait redressé l'Allemagne et que les données qui circulent sur la Seconde Guerre mondiale sont faussées. Et lorsque l'homme a enchaîné en affirmant que les chambres à gaz n'avaient rien d'historique, mais qu'il s'agissait de pure propagande, le policier est intervenu. Il a fait remarquer à celui qui tenait de tels propos que ceci tombait sous le coup de la loi, en le priant de cesser. Il s'est fait envoyer sur les roses, bien qu'il ait présenté sa carte de légitimation pour justifier son intervention. Carte de légitimation, c'est sa carte de police, quoi. Le policier a la... Attends pour moi. Louis D., un Nivellois né en 1945, a dû venir s'expliquer devant le tribunal correctionnel où il a qualifié d'inique la loi réprimant la négation du génocide, avant de préciser qu'il n'avait pas nié le génocide puisqu'il n'a pas prononcé ce mot dans le train. De même, il a précisé que contrairement à ce que le policier a rapporté, il n'a certainement pas parlé de Hitler, mais plus certainement de Monsieur Hitler. Et d'expliquer en audience publique que les chambres à gaz homicides des camps nazis ne sont qu'un mensonge très mal fait, et qu'il s'agissait seulement de caissons pour traiter une épidémie de typhus. Au ministère public indigné, Louis D. a aussi répondu en contestant le chiffre des morts dans les camps nazis, glissant en passage qu'on parlait très peu des soldats allemands morts de faim par la volonté du sioniste Eisenhower. Le tribunal a rendu son jugement mardi. Les propos tenus dans le train et répétés à l'audience par le prévenu constituent bien une infraction à la loi du 23 mars 1995. Le Nivellois écope dès lors de 20 jours de prison et d'une amende de 600 euros sans qu'un sursis ne lui soit octroyé, vu l'absence totale de volonté d'amendement dont il fait preuve. Alors, Fulbert, tu t'es fait gauler ?
Je suis innocent !
Je vous avoue que quand j'ai découvert la nouvelle et que je l'ai envoyée
à
tout le monde, je me suis dit qu'il y a un bon pourcentage de chances que ce soit notre copain Fulbert. Quoi. Mais non, ouais, c'était pas lui.
Il y a un double.
Il y a un double. Fulbert, tu as un double qui est vraiment très ressemblant. Quoi, hein. je sais. Monsieur, oui, non, je n'ai pas dit Hitler.
Monsieur Hitler.
Très certainement, Monsieur Hitler, oui.
Le sioniste Eisenhower. et au tribunal, hein, il ne s'est pas dégonflé. Hein, il s'est pas dégonflé. Alors Fulbert, d'abord, c'est un de tes compatriotes. Ensuite, je pense que tu te retrouves quand même globalement dans les propos qu'il a tenus. Du coup, je te sollicite pour commenter un petit peu tout ça. Surtout que tu connais probablement un petit peu mieux le fonctionnement judiciaire, parce que les lois sont pas... C'est les mêmes lois, mais bon, elles sont pas prononcées au même moment. Je sais pas quand elles sont utilisées, quelle est la fréquence. Voilà, parle-nous un peu de cette affaire.
Bah, je n'en sais guère plus que toi, hein, mais...
Par exemple, tu sais si c'est fréquent de se faire poursuivre pour négationnisme, comme ils disent, par les tribunaux, voilà. Est-ce que les peines sont très lourdes? Là, par exemple, on parle de 20 jours. Ça, enfin, vu les tarifs qu'il y a en France, parce qu'en France, là, maintenant, c'est les années, hein, clairement. Ça reste assez léger, mais ils ont voulu l'envoyer en prison. Ils disent sans sursis, hein, sans sursis et, comment dirais-je... Enfin, je crois qu'ils l'ont vraiment mis entre quatre murs. Ils ont mis un gars de 70 ans entre quatre murs parce qu'il refuse de faire soumission, quoi. Alors c'est un peu le sens de ma question.
Ça n'a jamais... Écoute, mettre un bonhomme de cet âge-là en tôle, ça n'a jamais gêné les juifs, ni ceux qui les servent. Hein, faut rester sérieux. Même à 80, 90 ans, d'ailleurs, Ursula Verbeek, elle a 90 ans en Allemagne, hein. Elle était aussi entre quatre murs, hein, 86 ouais. ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais franchement, ça ne les gêne pas. Ils sont les premiers à ouvrir leur gueule avec Auschwitz, mais ils installent Auschwitz, bon, sans les chambres à gaz, mais on sait que, nous, quand même, que, hein, on sait que ça n'y était pas, mais, comment vais-je dire, ils ont installé des Auschwitz partout pour mettre les antisémites. Ça va leur faire un tort considérable, ça vous pouvez en être sûr. Mais ça montre aussi une chose, c'est que, effectivement, moi je ne me souviens pas, il y en a eu, mais je me souviens pas particulièrement de gens qui se sont fait poursuivre, à part des gens connus comme Siegfried Verbeek, mais et aussi Renoir qui a été arrêté en Belgique là, hein. Mais à part des gens disons d'une certaine notoriété comme ces deux-là, dans les particuliers, chez les particuliers, les gens du peuple, moi je me souviens pas de cas particulier, mais il doit y en avoir, parce que je vais quand même vous dire un truc, je peux vous confier au moins une petite chose, c'est qu'il y a des années de cela, en discutant, il faisait beau, il y avait du soleil, je discutais avec certains de mes voisins, et je leur avais sorti un discours pareil, parce que bon, je ne sais plus ce qui s'était dit, mais je leur ai aussi dit, bon écoutez, on vous bourre le mou du berceau à la tombe, il faut essayer de reposer vos pieds sur terre, réfléchissez. Et la discussion était partie. Naturellement, et curieusement, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Et curieusement, disais-je, c'était les plus jeunes qui étaient le plus prompts à soutenir la thèse officielle. Les vieux, enfin les plus âgés, à mon avis, ils avaient déjà commencé à comprendre. Sans qu'on leur explique, mais ils devaient sentir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Parler de plus en plus de l'Holocauste, des Juifs, de ci, de là, de tout ce qui est hébraïque, ça a dû sérieusement les fatiguer. Et je crois que maintenant, ces couillons de Juifs qui sont plus couillons que jamais, en parlent de plus en plus, je les encourage. Je les encourage j'encourage la presse de mettre en évidence toutes les récriminations hébraïques possibles et imaginables. Ça les fera tomber plus vite. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite.
Ce qui vaut la peine d'être remarqué, c'est que c'est une discussion privée. Alors, on peut dire que la passagère ne voulait pas en fait écouter ce que disait cet homme, mais bon, c'est une discussion entre deux adultes dans un train. Bon, c'est l'attitude du flic qui est frappante. C'est-à-dire que ce flic,
très zélé.
Voilà, c'est ça. C'est il est pas en service, hein. Notez bien, il n'est pas en service, il a sa carte, etc. Mais lui, il intervient, hop. Et c'est... Quand on parle d'autorité religieuse et de bras séculiers, ben on est un peu là-dedans. Hein. L'autorité religieuse, il n'y a pas besoin de la définir.
L'insupportable police juive de la pensée, hein, c'est ça
la... Ouais, comme des Kriegel. Comment dirais-je donc l'autorité morale, elle est constituée, vous la connaissez. La religion officielle, vous la connaissez. Et puis, on a les... Hein, on a ceux qui font du zèle, hein, visiblement. Et alors, lui, il intervient. C'est-à-dire que le monsieur en question ne lui parle pas. On est bien... C'est lui qui arrive. Ma carte, là. Hein, bon, maintenant, vous arrêtez de parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Je veux dire, on est pas face à un homme qui est en train de tenir un discours théorique sur la question des chambres à gaz, ou je sais pas quoi. Je veux dire, c'est pas du tout un discours politique, c'est quelqu'un qui discute avec une nana. Alors la nana peut dire, vous m'importunez, vous arrêtez de parler de ces sujets-là, etc. Bon, auquel cas, ça peut être quelqu'un qui est gênant, mais c'est de l'ordre de la courtoisie. Et là, ça devient politique. On voit, et moi ça m'intéresse ça, parce que ça se passe déjà en France comme ça. On voit que, par exemple, la loi Guesso, donc parmi toutes les lois de censure qui existent en France, la loi Guesso, donc qui réprime le fait de contester l'histoire officielle, quoi, relative à la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Au départ, comme disait d'ailleurs le professeur Forisson, c'était la loi Forisson, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'était fait exprès pour lui. C'était fait pour le pénaliser, lui, l'empêcher de défendre ses thèses. Hein. Bon. 25 ans après la promulgation de la loi, non, plus que ça, bientôt 30 ans après la promulgation de la loi Guesso, on se rend compte aujourd'hui, on en est presque à arrêter des gens comme ça au PMU. Ah, il n'a pas tenu le truc, sur Facebook, celui-là, il a dit ça, etc. Et vous faites comme ça, cité à comparaître au titre de cette loi, qui au départ n'était conçue en fait que pour réprimer des intellectuels, le professeur Forisson était un intellectuel, hein, c'est un universitaire, articulant des opinions ou des thèses qui étaient jugées, problématiques, pour le moins, par le pouvoir en place, mais c'était très ciblé. Maintenant, ça se démocratise, la répression se démocratise. Et on voit qu'en Belgique, c'est le cas aussi. Ça me marque beaucoup, ça, dans le témoignage qu'on voit là. Voilà.
Bah, en fait, le truc, c'est que le flic, c'est un white knight. C'est, il voit une gonzesse qui est importunée, il se dit... Je dois faire quelque chose. Et là, il tombe sur le papy qui est négationniste, quoi. Donc en fait, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Non seulement il a sauvé une pétasse en détresse, mais en plus il a arrêté un vilain facho.
Il a sauvé 6 millions de juifs en plus.
Moi j'aimerais bien mitiger un petit peu tout ça pour que nous reposions nos pieds sur terre. Je vais dire un truc, ça se passe dans le train. Le flic est un civil. Ça veut dire que le type est sans doute hors service. Il a sans doute terminé son service. Il est en habit, comme on dit, bourgeois. Il prend le train, il rentre chez lui. Et se passe quelque chose que Gandalf a expliqué en lisant l'article, qui fait que le type est obligé d'intervenir. Pourquoi ? Je défends pas le flic, je défends pas les juifs, hein, certainement pas. Mais il est obligé d'intervenir. Pourquoi ? Parce que si c'est effectivement le train qu'il prend quotidiennement pour rentrer chez lui ou aller à son travail, eh bien il y a sûrement des gens dans le même wagon qui savent qu'il est flic. Ça, il faut bien comprendre ça. Ensuite, je dirais qu'avec l'âge, et là c'est à la charge de mon clone, avec l'âge, on doit comprendre qu'il y a des gens à qui on ne peut justement pas parler de cela. Hein, j'ai une anecdote tout à l'heure où j'ai discuté avec mes voisins, j'ai fait un constat. Bon, mais quand vous allez dans le train, même si vous voyez certaines personnes régulièrement, vous aussi, ce qui est peu probable, puisqu'il s'agit d'un septuagénaire qui est certainement retraité, enfin ça j'en sais rien, vous voyez tout de suite, quand vous étouffez les gens à qui vous parlez, ou bien quand vous les délivrez, je dirais, d'un doute ou d'une suspicion. Et là, le type a probablement fait une erreur de psychologie, ou alors il était révolté pour une raison ou une autre, il se dit « Oh diable, l'avarice, même si je dois voir des emmerdes, j'y vais, ça sera l'occasion de leur cracher à la gueule. » Il y a peut-être un aspect comme ça, je ne sais pas, hein, c'est une supposition.
C'est bien observé.
Par ailleurs, la loi Pleven-Fabius-Guesson en France a été suivie en 1990 en Belgique. C'est-à-dire que c'est au moment où Guesson, si je ne m'abuse, en 89 ou en 90, a sorti la loi complétée, cette fameuse loi antiraciste, antisémite, etc. Enfin, contre. Et les Belges, en Belgique, on a suivi. Qui a suivi ? Ça, c'est intéressant. C'est un monsieur qui s'appelle Mouraud, dont vous connaissez peut-être le nom. Ah oui. Qui fut longtemps, j'ose le dire, l'imam de Molenbeek, c'est-à-dire le bourgmestre, hein, mais disons l'imam, ce serait beaucoup plus logique, et à qui sa fille a succédé, en tout cas aujourd'hui, elle se trouve bourgmestre de Molenbeek, elle aussi. Et je suis un petit intermède libéral, mais bref. Et ce Mouraud, qui est crevé maintenant, hein, rassurez-vous, il est crevé, il pue là où il est. Ce Mouraud avait épousé il y a quelques années, pas très longtemps, peut-être 6-7 ans, quelque chose comme ça, une de ses échevines, c'est-à-dire, je ne sais pas comment c'est en France un échevin, vous avez une idée ?
Un conseiller municipal ?
Non, parce qu'on a des conseillers aussi. Enfin bon, ce sont les ministres du bourgmestre, ou les ministres du maire.
Adjoint, oui, il a raison.
Ouais,
il a
maire
raison.
Adjoint, oui.
D'accord. Et donc, il a épousé une de ses échevines, qui était une maghrébine, c'est pour le côté cocasse, qui était sa cadette de 35 ans. Donc le viol, c'est à bras raccourcis que c'est... J'ai oublié comment elle s'appelle, sa nana, là, dans Astérix. Et donc, voilà, il s'est retiré, il est crevé il n'y a pas longtemps. Et c'est lui qui a véritablement promu la loi... pour combattre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Quelques autres, il y en a un ou deux autres qui s'y sont adjoints et qui ont essayé de jouer les kinks en complétant cette fameuse batterie de loi concernant les mœurs sexuelles, le sexe, etc., etc. Mais bon, on n'en parlera même pas, sont des connards, quoi. Mais voilà, ça c'était une petite explication supplémentaire.
Je savais pas que c'était Mouraud. Donc, enfin, pour ceux qui connaissent pas l'affaire, donc Moureau, donc c'était donc le maire de Molenbeek. Molenbeek est connu maintenant en France parce que c'est de là qu'est partie l'attaque contre le Bataclan à Paris, qui a fait plus une centaine de morts à peu près. Hein. Et les recrues venaient de ce quartier, enfin de cette commune-là. C'est une commune dense. Qui est, je ne sais plus combien il y a d'habitants, il y a plus.
Je crois que j'étais surpris, tu m'avais redressé un jour, je suis allé voir, je ne sais plus si c'est 70 000 et quelques ou 90 000 et quelques, mais je crois que c'est 90 000 et quelques habitants.
C'est plus que ça, me semble-t-il.
Je vais vérifier pendant que tu parles.
Vérifier en direct, hein, mais il me semble que c'est plus que ça. Et donc Moureau, en fait, socialiste, hein, Moureau.
Absolument.
Socialiste. Donc socialiste belge qui a suivi, comme en France, la même pente islamophile. Et donc il a organisé, sous couvert de socialisme, en fait, le clientélisme islamique, qui va générer, qui va sécréter en fait une véritable casbah sous domination des djihadistes en fait. Tout ça au sud de tout le monde, hein. Là-bas, c'est pas du tout un secret. Hein. C'est un quartier islamique. Les gens doivent mesurer ça. Molenbeek, c'est un quartier islamique dur. Il est tenu par des familles, des clans, si vous voulez. Il y a des planques d'âmes partout. Tout ça, c'est lié au pays d'origine, etc. Et là-dessus, on met un Belge, si vous voulez. Mais un Belge qui couvre en fait toutes les magouilles. Et c'est révélateur ce que dit Fulbert sur ce point précis avec Moureau quand il épouse sa maghrébine. Parce que quiconque sait... C'était une Marocaine, je crois. Hein
oui, il y a beaucoup de Marocains en Belgique, d'ailleurs. Voilà. Beaucoup plus de Marocains qu'Algériens.
Alors, donc, il faut savoir que les lois du Maroc prévoient très clairement que si un koufar, un infidèle, un non-musulman, veut épouser une Marocaine, il doit se convertir à l'islam. Ce qui fait le lien avec le sujet précédent dont on a parlé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la femme est musulmane et l'homme n'est pas musulman, l'homme doit, devant la loi marocaine, se convertir à l'islam. Donc, quand vous voyez quelque part dans le show business en France, en Belgique ou ailleurs, un tel a épousé une Marocaine, pour que l'union soit reconnue au niveau marocain, il faut la conversion, hein, il faut la shahada, c'est obligatoire. Donc Moureau était musulman.
Absolument, j'avais oublié de le dire, excusez-moi.
Il a pas dû faire, je sais pas s'il s'en est vanté, mais c'est obligatoire. Je sais pas s'il s'en est vanté, par contre.
Absolument, il était devenu musulman. Hein. Ouais. Voilà, mais est-ce que c'est pas un peu la même chose avec les juifs? Parce que moi j'ai vu quelques histoires. Il y a le cas des Limones qui avait peut-être déjà quelques aïeux, mais. Je suis occupé à me demander, quand il a épousé une juive, il s'était converti. Bon, il l'a peut-être fait librement, mais j'ai un doute.
Alors, il y a combien d'habitants à Molenbeek ?
97 005.
Alors, 97 000 pour nos amis français.
C'est ça, 100 000. Hein. Alors, tout ça pour dire que ce type qui venait du socialisme anticlérical, libre penseur, maçon... qui a pris la défense des juifs passionnément pour mettre en place la loi dont tu parles, donc la loi qui a valu à ton sosie des problèmes avec la maréchaussée puis la justice juive, a été le fourrier du djihadisme dans sa commune. Et c'est sa fille qui lui a succédé, et je vous ferai observer, que Emmanuel Macron s'est rendu à Molenbeek récemment pour dire à quel point cette ville était vibrante, c'était de l'espoir, etc. La ville, qui est intégralement, c'est un bouge musulman, hein. C'est une casbah, j'ai dit une casbah, c'est une casbah.
Bah, il est allé rendre hommage à la culture de en Belgique, tu vois, parce qu'il n'y a pas de culture belge, comme il n'y a pas de culture française, mais il y a une culture en Belgique et une culture en France qui est la même,
Oui.
Une culture qui vient d'Afrique. Hein.
Voilà. Et il est allé là-bas en déplacement avec sa rombière, là, sa brigitte. Ah bah ça fait encore le lien avec ce qu'on disait, mais là c'était par rapport à l'animatrice, donc qui couche avec des mineurs. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Parce que, faut pas se mentir, hein. Bon, imaginez, je dis n'importe quoi, ça n'arrivera jamais, mais imaginez, je sais pas, une commune en Belgique qui serait remplie de néo-nazis, ouais, il y a que des néo-nazis là-dedans, voilà, et ils font un raid quelque part en France, ils assassinent 100 nègres. Et comment dirais-je, 2 ans après ou 3 ans après, vous voyez un président français se précipiter dans la commune en disant mais quelle commune vibrante, etc. L'avenir, la jeunesse, etc. Bon. Vous pensez bien que là-dessous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de magouilles. Un président français a quand même très bien renseigné, il sait exactement ce qui s'y passe, et il est parti courtiser cette faune qui a tué 100 Français, je le rappelle. Voilà. Donc vous voyez, hein, tout est lié. Mais le même qui a créé donc cette casbah djihadiste est à l'origine de la loi qui va réprimer de pauvres septuagénaires qui disent, pour le coup, la vérité sur les chambres à gaz, et là, conférez-vous à la première part, au premier sujet de l'émission. C'est marrant, c'est toujours cohérent, c'est marrant. Mais voilà. Qui d'autre là-dessus?
Ah, une petite chose sur l'emprisonnement, la peine là, qui est un emprisonnement de 20 jours pour ce monsieur. La peine la plus lourde là, connue, Renoir en parlait, c'est un certain Wolfgang Fröhlich, qui est un Autrichien, qui a participé notamment en 2006 à la conférence à Téhéran, en Iran, et qui a été condamné en 2007 à 13 ans de prison au total. Donc là, cette vue que c'était en 2007 arrive bientôt à échéance, mais vu qu'en prison, il a échangé des lettres où il a parlé, du mythe de l'Holocauste à nouveau, et puis de Mauthausen, du cirque de Mauthausen, etc. Bon, donc il a tourné en dérision la version officielle. On prolonge sa peine et on la transforme en quelque chose de psychiatrique, en internement psychiatrique. Voilà. Oh, putain, donc il n'est pas prêt de sortir. Hein. Et ça fait déjà 13 ans qu'il est sous le verrou. Et c'est pas prêt de se terminer pour quelqu'un qui est un ingénieur de formation, qui n'est pas un pauvre type. Hein.
Donc c'est soviétique. Bolchevique. C'est... Là, on a vraiment la démonstration de ce bolchevisme en action. Hein. Là, vous le voyez. Mais parce que précisément, on voit. Enfin, là, c'est en Autriche. Autrement, c'était en Belgique. Mais c'est parce que l'ingénieur dont tu parles, Monsieur Fröhlich, lui défend. Comment dirais-je, c'est un travail intellectuel qu'il formule. Donc, il est dangereux. Donc,
travail intellectuel, scientifique, etc. Donc ça, c'est dangereux. Par contre, tu as parlé des attentats, de Daesh et compagnie, de Molenbeek. Jawad, lui, il a été libéré. Hein. Enfin, il a été ensuite emprisonné, mais pour une autre histoire. Et on l'a vu, ce logeur de Daesh, on l'a vu jouer à la console vidéo avec l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron. Donc voilà.
C'est ça, oui. Bah oui.
J'aimerais ajouter un petit détail à ce propos, justement. Si tu avais terminé, Alexis.
Oui.
Ok. Voilà. Lorsqu'il y a eu les attentats le Bataclan et un ou deux autres attentats dans la région, il y a eu, je me souviens avoir vu une courte vidéo qui était extraite des informations, je pense, de la RTBF. D'une chaîne de télévision belge. Et il y avait des voitures qui circulaient dans Bruxelles, et c'était probablement Molenbeek, et qui klaxonnaient de la même façon que lorsque l'équipe nationale gagne un match de football. Cette vidéo n'a pas duré longtemps. Mais je vous assure que je n'ai pas rêvé, et je n'ai pas encore perdu toutes mes billes, malgré mon âge.
Tiens, une petite annonce en passant, quand vous voyez des vidéos comme ça, des trucs sur les réseaux sociaux, sauvegardez-les et envoyez-les nous. N'hésitez pas. Hein. Parce que c'est vrai qu'elles ont très faible. Enfin, les vidéos vraiment problématiques du point de vue du pouvoir ont une durée de vie très limitée. Donc n'hésitez pas. Ça, c'est... Ouais. Mais même vous, n'hésitez pas à les archiver. Vous allez mettre sur archive.org, par exemple, ou d'autres sites équivalents. Voilà, archiver. Très important. Parce qu'après, c'est sucré. Donc voilà.
Ah, oui.
Je vous propose, messieurs, de faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la seconde partie de l'émission.
Voici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode numéro 6. Premier sujet de discussion, c'est la censure qui se renforce en France. Présenté comme ça, vous allez me dire, bon, apprends-moi quelque chose. Pourquoi j'ai voulu en parler, c'est que ça prend une autre dimension là. Cette semaine, on l'apprend, on le découvre, grâce à des déclarations qui confirment que les choses s'accélèrent et que ça va concerner tous les Français. Donc très clairement, là, il y a quelque chose qui se passe, si vous voulez, et ça se passe à très haut niveau, et ça va aller beaucoup plus vite que par le passé. Et j'ai estimé, et je pense que les autres participants aussi ont estimé avec moi que ce n'était pas inintéressant que d'en parler. Alors, premier article qui attire l'attention, c'est cité par Ouest France, c'est le forum 18-25 de JVC. D'accord ? Donc jeuxvideo.com, qui est en fait un site de jeux vidéo, comme, ça, voilà, comme son nom l'indique, et qui comporte un forum... sur lequel les 18-25 ans, hein, et plus ou moins, échangent sur les sujets de société. Donc on va dire que c'est un espace de discussion pour les jeunes mecs. C'est surtout les jeunes mecs, hein. Il n'y a pratiquement pas de filles là-dessus. Et il y a une part politique. Vous voyez, genre... je sais pas quoi, dernier sujet à la mode, voilà. Il y a énormément de sujets qui sont générés, c'est tout à fait évident. Donc c'est un peu un lieu phare, qui est très observé par les politiques, enfin, par le gouvernement et par les politiciens, parce qu'ils veulent un peu prendre la température de ce qui se dit ou ce qui se disait au sein de la jeunesse. C'était pas inintéressant. Or, c'était développé sur JVC, bah, une parole totalement libérée, quoi. Alors, ça veut pas dire que c'était un forum fasciste. Mais des gens avec des opinions politiquement correctes pouvaient s'y exprimer. Jusqu'à ce que... on décide de reprendre tout ça en main. Et là intervient donc cet article de Ouest France, dont je vous livre le contenu. Jeuxvideo.com, le site français qui héberge des forums de discussion et notamment le tristement célèbre, je cite, hein, le tristement célèbre Blabla 1825, a rejoint ce lundi le code de conduite de l'Union européenne contre les discours de haine illégaux, notamment racistes et xénophobes. Notez bien, hein, racistes et xénophobes. Aujourd'hui, je veux saluer l'arrivée de la plateforme française de jeuxvideo.com. C'est féliciter la commissaire à la justice, Vera Jourova, de nationalité tchèque, je tiens à le préciser. Alors donc, le site français jeuxvideo.com, souvent critiqué pour les discours haineux diffusés sur ses forums, a rejoint donc le code de conduite de l'UE contre ce fléau, annoncé lundi la Commission européenne, satisfaite des progrès des grandes plateformes comme Facebook et Twitter. Près de trois quarts des contenus considérés comme des discours de haine illégaux, notamment racistes et xénophobes, sont supprimés après leur signalement, contre moins d'un tiers au moment du lancement de ce code en 2016, s'est réjoui l'exécutif européen devant la presse. Alors là, il faut bien relire ce passage pour voir la désinformation de la presse d'État à l'œuvre. Donc c'est Ouest France, c'est un des plus grands quotidiens français, qui reçoit des volumes énormes d'argent volé aux contribuables et reversé par le truchement de la mafia au pouvoir. Et réécoutez bien, près des trois quarts des contenus considérés comme des discours de haine illégaux. Près des trois quarts des contenus considérés comme des discours illégaux, notamment racistes ou xénophobes, sont supprimés après leur signalement. C'est-à-dire que ce que dit le journaliste là, c'est qu'a priori, tous les signalements sont des contenus racistes. Et il dit, il y a les trois quarts des contenus signalés qui sont supprimés. Mais tous les signalements sont racistes. Vous voyez ? C'est vicieux, mais ça permet de légitimer, en fait. Ça veut dire, ouais, ils font des efforts, mais c'est pas encore assez.
Non, c'est notamment raciste et xénophobe. Mais c'est oui, ça doit être une grande partie, je pense, hein, c'est sûr.
Oui, enfin, de toute façon, pour eux, si tu veux, tout ce qui est signalé doit être supprimé. Voilà, c'est ça que je veux dire, en fait. Ce qu'ils disent. Pour eux, il y aura une efficacité à 100%. Là, ça sera du bon boulot. Alors, du coup, il y avait Captain qui voulait prendre la parole. Sur ce qu'on a déjà lu, là, il y a la suite qui suit, mais voilà. Qui veut dire quoi ? À part Captain, enfin, c'est Captain qui veut prendre la parole.
Un truc très simple, en fait, c'est que quand j'entends des discours de haine illégaux, Ah, ça veut dire qu'il y a de la... il y a des discours de haine légaux et il y en a qui sont illégaux. Donc je note que les discours de haine légaux, bah, c'est ceux qui sont proclamés par nos maîtres.
Alors ça, c'est un bon argument. Il y a un couillon comme ça qui sévit sur Internet qui s'appelle... Je crois que c'est Champeau, je crois qu'il s'appelle. Corrigez-moi si je me trompe, c'est lui qui participe à Quant, moteur de recherche soi-disant alternatif promu très très lourdement par le gouvernement français. Bon, donc, quand c'est promu par le gouvernement français, vous pouvez oublier. Hein. Je dis pas que la technologie est mauvaise ou quoi que ce soit, mais c'est très 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 mauvais signe. Parce qu'évidemment, c'est produit en France, c'est fait par des Français. À la minute où ils recevront un courrier du gouvernement pour leur dire « balancez-nous les noms seront donnés ». Et ce Champeau, je crois qu'il s'appelait Champeau, mais vraiment, je suis pas certain. Je crois qu'il avait fondé Numérama, donc ceux qui connaissent savent de qui je parle. Explique doctement qu'effectivement, c'est très très bien de censurer les propos de haine. Voilà. Mais par ailleurs, le type fait son beurre sur la protection de la vie privée, attention hein, quand même à l'ingérence dans la vie des gens par Google, etc. Mais le type trouve absolument normal les lois bolcheviques qui vont permettre au gouvernement de traquer un mec qui est passablement sceptique sur l'apport du virus LGBTQI+ cancer ou sur l'islam de l'amour, etc. Je veux dire,
c'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement français a un problème à récupérer des infos auprès de Google parce que bon, tu vois, les fromages qui puent, tu vois, ça les fait marrer. Tu vois. Donc ouais. il faut
un Google français.
Voilà, il faut un Google. En plus, c'est un Google français, c'est-à-dire que ça prend les résultats de Google. Quoi. C'est le moteur Google et t'as le machin, il est marqué Quant. Hein. Bon, on te base du truc, oui, protection de données, bla 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 bla. Mon cul, bien entendu, mon cul. C'est une manière pour les services français de s'assurer. Un œil, hein, une vision de ce qui se passe de manière plus précise.
Bon, échec garanti, et d'ailleurs tellement garanti que c'est uniquement les ministères et les administrations qui adoptent de force Quant comme moteur de recherche par défaut. Je trouve ça fascinant. Mais c'est pas le sujet, en fait. Ce type-là est vraiment symptomatique. C'est-à-dire que les types considèrent en fait que dans sa rhétorique, hein, ce bonhomme-là, qui est soi-disant un libertaire du net, qui est garant des libertés privées, explique, mais vraiment, il le dit, là quand même les discours de haine, c'est pas possible, il faut pouvoir les identifier, les poursuivre, d'accord. Mais précisément, venons-en à la définition de la haine. Moi, j'ai une définition de la haine qui est très différente de ce monsieur-là. Donc en utilisant simplement son raisonnement, je vais peut-être encourager plus tard, dans un futur hypothétique, je sais pas s'il y a un changement de régime politique, s'il y a un renversement important socialement qui aboutit à un changement de direction générale de la société, quoi. Je vais peut-être aussi appeler, moi, à combattre les discours de haine et à identifier ceux qui les tiennent, pour les poursuivre devant les tribunaux et ensuite les jeter en prison, comme le dit donc ce libertaire apologète de la censure et de la répression. Moi je propose, comme définition de la haine, c'est la haine des autochtones, par exemple, la haine de la nation. On peut imaginer ça, la haine de l'hétérosexualité. Voilà, c'est qu'il n'y aurait plus qu'une définition de la haine sur les questions sexuelles, c'est l'hétérosexualité. Toute manifestation d'animosité à l'égard de la cellule familiale, naturelle, comme hein, voilà, un papa, une maman, des enfants. Toute apologie d'actes contre la cellule familiale devrait être violemment combattue par l'État, et les gens qui s'amusent à la moquer là, devraient être traduits devant des tribunaux, etc. Voilà, parce que c'est intolérable, hein, la haine de la cellule familiale est intolérable. Et comme ça, on pourrait faire toute une série de déclinaisons, et je pense que ces gauchistes ont besoin de ça. Ces saloperies de gauchistes se permettent de telles libertés, c'est de liberté liberticide, je ne sais pas ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils se permettent de telles libertés pour appeler à réprimer la parole des autres, que ces gens, je crois, moi, qu'il est temps de les souquer et très sérieusement. Très sérieusement. Alors, puisqu'ils aiment définir la haine chez les autres, hein, pour ensuite appeler à la répression, moi, je propose qu'on reformule les définitions de la haine, je vais donner quelques pistes de réflexion, et qu'on appelle à la répression. Voilà. Alors, quand Champeau...
En fait, il n'y a pas besoin de... Ouais. Il n'y a même pas besoin de redéfinir, tout simplement, juste leur balancer dans la tronche, quoi. Les mecs te parlent de haine à longueur de journée, et effectivement, la seule chose à laquelle ils appellent, c'est à la destruction d'un groupe en particulier, et souvent, ils en sont pas issus, ce sont les Blancs. Voilà, ça, c'est de la haine. T'as pas besoin de redéfinir, c'est tout, c'est de la haine. À partir du moment où tu définis un groupe en particulier que tu veux attaquer, bam, fini, hop.
Alors, il s'appelle Guillaume Champeau. Voilà, c'est fondateur de Numérama, bon, Numérama qui est une poubelle aujourd'hui, tenu par des gauchistes infâmes et des PD, anti-blanc en plus, hein, c'est récurrent, hein, on en a eu l'occasion d'en parler dans le passé, donc maintenant c'est derrière le projet Quant, et c'est vraiment, c'est typique, c'est tous ces faux jetons, c'est comme Apple Boyne, je crois qu'il s'appelle comme ça Apple Boyne, c'est une espèce de juif, là, la quadrature du net, et toute cette merde, c'est soi-disant ces pseudo-libéralistes, ils sont complètement enjuivés, ces gens-là, si vous voulez, se posent comme... Si vous voulez, c'est les pseudo-dissidents totalement homologués par le système. Alors, les types vous disent, nous, on représente la défense des libertés publiques et des libertés individuelles face à la menace orwellienne de surveillance généralisée. Ça, c'est comme ça qu'ils se vendent. Quand vous creusez ce qu'ils disent, en fait, ils sont pour la surveillance généralisée des opposants politiques qu'ils ont définis. D'accord ? Donc, en fait, si vous voulez, c'est, pour le coup, c'est vraiment orwellien. C'est-à-dire que la dissidence... Il y a une dissidence en France, mais elle est homologuée par l'État. D'accord ? Il y a une dissidence homologuée par l'État, et elle explique que l'État est extrêmement orwellien, extrêmement autoritaire, et sur une pente dangereuse, parce qu'elle ne traque pas assez les dissidents. Voilà, c'est du vrai Orwell. Et ça, c'est du Guillaume Champeau et toute cette clownerie-là. Alors les types, après, ils vous envoient sur d'autres discussions, des trucs techniques, ouais, là, comment faire pour, je sais pas quoi, effacer ses cookies, j'en sais rien, bah, des conneries à la con comme ça. C'est-à-dire que le grand public ne maîtrise pas du tout et tout le monde se fout. Par contre, je pense que le grand public est très 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 sensible aux questions de liberté d'expression, et quand t'as envie de dire PD en public, t'as envie de pouvoir le dire, sans avoir... précisément des gueules de fiottes comme Champeau pour appeler les procureurs à venir te courir derrière. Ouais, c'est ça, quoi. Donc ça, c'est l'ambiance, si vous voulez. C'est l'ambiance. Alors après, là, c'était Ouest France qui s'exprime. Bon, là, c'est plus des journaux mainstream. Eux, je parlais de défense de leur turf, bah, c'est exactement ça. Ils ont bien compris que, de toute façon, tout ce qui était Internet, c'était problématique. Parce que ça donne les gilets jaunes qui se mettent à vouloir... parler différemment aux journalistes, ça leur plaît pas. Donc, eux, de toute façon, tout ce qui est espace d'expression libre, non, niette, hors de question, ça va pas dans notre direction, on oublie.
Oui, alors, le Champeau était chez TADI, donc TADI maintenant qui est sur, sur Russia Today. Or, c'était justement sur la question de l'anonymat sur Internet. Et c'était un grand, grand moment. Puisque ce monsieur a dit « Oui, moi, je suis pour la liberté sur Internet, sauf quand cela concerne les discours de haine. » Donc, voilà. Voilà. Donc, en fait, il était, évidemment, contre l'anonymat. Il me l'a expliqué. C'était vraiment assez énorme, parce que le mec se présentait comme le PDG d'une boîte qui faisait un moteur de recherche libre. Et c'était un pile-poule. Parce que je pense qu'il est goy. J'ai jamais vu un tel pile-poule de la part d'un goy. Je me demandais s'il maîtrisait les subtilités de l'arnaque, en fait.
Bah si, je pense que... Bon, à vérifier, hein, mais de toute façon, il a une gueule de fiotte. Il est peut-être pas pédé, mais il a une gueule de fiotte. Et de toute façon, il appartient à une sociologie de collabos totalement à genoux devant, devant cette tyrannie hébraïque. Donc, il a tout pompé. Sans mauvais jeu de mots, il a tout absorbé, c'est une éponge, voilà, il est acquis à la religion de l'Holocauste, il est acquis à l'antifascisme, comment dirais-je, pavlovien, il est acquis à la fiotisation générale, et tous ceux qui refusent le rouleau compresseur de l'ingénierie sociale juive doivent être écrasés, il est pour, il veut ça, mais tout en pouvant se revendiquer comme un militant libertaire, moi ça me fait
Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Et voilà. Mais c'est vraiment symptomatique. Et vous avez des Apple Boys, c'est la même chose, c'est les mêmes gens. Ce sont des rentiers de la fausse opposition des libertés individuelles et notamment numériques. Ils ont une fonction, ces gens-là. D'ailleurs, ils touchent du blé, ils touchent du blé de l'État, ne l'oubliez pas. Si les vrais dissidents ou les vrais opposants étaient financés par l'État qui combattent, nous, on serait millionnaires. Je veux dire, depuis le temps. Non.
C'est ça, c'est... Tout leur discours, c'est la haine. Alors, tu penses bien que nous, en termes de haine, hein, selon eux, on est au top du top.
Bah, on est l'état noir de la haine.
On est 10 sur l'échelle de Richter. À peu près.
c'est 100 sur 100 sur l'échelle de la haine. Mais dans la haine, en fait, ça reste un sentiment, la haine. Hein, c'est ni plus ni moins qu'un sentiment. Et l'appel à la haine, c'est de l'incitation au sentiment. Et l'incitation au sentiment, comment te dire, c'est quand même très subjectif. Hein. Donc quand tu demandes à des juges de juger quelqu'un et de le tuer socialement en fonction de l'incitation au sentiment, bah forcément le juge, il est obligé de faire intervenir sa sensibilité pour trancher, et sa sensibilité est une sensibilité rouge.
Hein. Bien sûr.
Forcément, derrière la haine, tu as le sentiment des gauchistes qui jugent en fonction de leur propre sentiment.
À des lunettes particulières pour voir le monde, hein, dénoncer ce qui se passe à Molenbeek en matière de réseaux armés, islamistes et compagnie, c'est la haine. Alors, de quel côté est la haine ? Est-ce que non, ça ne peut pas être les djihadistes qui vont tuer des gens concrètement dans Bataclan et autres ? Non, c'est nous qui traitons de ce sujet-là.
Bah, les gauchistes, de toute façon, ça c'est un trait récurrent de leur mentalité, qu'on retrouve aussi chez les juifs d'ailleurs. C'est bizarre. C'est celui de la projection. C'est-à-dire que ces gens projettent sur les autres ce qui les anime. Alors, ce qu'on appelle les antifas, c'est caractéristique. C'est-à-dire que les types disent les violences policières, par exemple, il y en a. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de violences policières, c'est pas ce que je veux dire. Mais ils dénoncent constamment l'usage de la violence. Ils disent les fascistes sont violents, c'est la brutalité, c'est la sauvagerie, etc. Les flics sont les bras armés du capitalisme, c'est des crypto-fascistes ou c'est des fascistes, ils sont violents, etc. Bon, bref, tous ceux qui n'aiment pas sont des fascistes parce qu'ils sont violents. Ils assimilent. Violence et fascisme. Quand vous regardez la France, en France aujourd'hui, bon, je dis pas qu'il n'y a pas des gars de chez nous qui peuvent être violents de temps en temps, ça arrive, c'est évident. Bon, mais chez les antifas, la violence, elle est permanente. Je veux dire, c'est constamment glorifié. Je veux dire, l'usage de la violence contre les logos qu'ils utilisent ou les visuels qu'ils utilisent quand tu vois un personnage X qui éclate à coups de pied la tête d'un nazi ou d'un skinhead.
Ils appellent eux à tuer des gens, hein, de manière tout à fait ouverte et sans que ça ne pose problème au pouvoir,
aux autorités,
hein, aux autorités qui laissent faire et qui même encouragent. Hein.
Confère Antonin Bernanos qui a jeté un cocktail Molotov
Si tu es un flic, il avait pris 5 ans en 3 ans ferme, il a purgé 4 mois. Donc, la grande dissidence sur ce système, bon, ça fera marrer un petit peu tout le monde. Détinger son coup de poing, le petit boxeur là, gitan. Enfin, pas gitan, bon, il est yéniche, mais c'est bon. On va dire gens du voyage, comme on dit. Il est toujours en tôle, hein. Je sais pas comment il va prendre, mais on verra. Mais il a eu un traitement très différent.
Il est en tôle et puis il a droit de se faire insulter par la fiotte arrogante Macron devant des journalistes.
Il a dit d'ailleurs, parce que Macron a dit oui, on voit qu'il a été briefé, peut-être, parce que je crois que Macron parle dans ce passage-là des Russes aussi, l'influence russe. Bon, et ouais, Détinger, on voit qu'il a été briefé, ce ne sont pas les mots d'un boxeur gitan, ce qui est un propos quand même un peu cavalier. Et Détinger a dit non, mais c'est de l'injure raciale, donc apparemment il voudrait faire.
Pitbull.
Ouais, voilà. Ça serait du... Alors, c'est logique, parce que si un mec comme Le Pen avait dit oui, on voit qu'il parle bien, c'est pas un boxeur gitan, là par contre, les gauchistes, qu'est-ce que c'est que ce nazi, machin.
Ce que je veux dire, c'est que donc, les gauchistes projettent sur les autres ce qui les anime, en fait. Donc les gauchistes, de toute façon, projettent sur les autres ce qui les anime. Et comment dirais-je, les accusations de haine, la haine en général ne leur pose pas de problème. Ils n'ont aucun problème avec la haine comme sentiment. C'est ça leur grande hypocrisie. Là, on retourne un petit peu au premier sujet qu'on a discuté avec Captain sur, comment dirais-je, la morale qui est professée et les intentions réelles et l'hypocrisie que ça traduit, c'est que, en fait, tous ces gauchistes, pour ne parler que d'eux, qui appellent à la répression de la haine, sont des fauchetons. La haine ne les dérange pas du tout. C'est la haine ou l'hostilité manifestée par certains contre d'autres, en l'occurrence leurs ennemis. Et là, tout devient plus clair. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la haine qui les dérange, c'est que leur ennemi manifeste une hostilité à leur égard ou à l'égard de leurs intérêts. Donc en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est faire taire leurs opposants. C'est tout. Mais ils maquillent ça comme étant une espèce d'aspiration générale et généreuse, qui ne serait pas, si vous voulez, circonscrite à certains groupes politiques, voilà, une façon pour eux de dire attendez, nous ici, nous sommes parfaitement neutres et impartiaux, nous n'avons pas d'a priori contre un groupe plutôt qu'un autre, nous sommes vraiment là dans une pure démarche de moralité publique. C'est absolument faux. Ces gens sont dans un combat politique permanent, ils veulent faire taire tous ceux qu'ils considèrent comme des ennemis. Tous ceux qui se considèrent comme des ennemis. Donc la haine ne leur pose pas de problème. Et la meilleure preuve, c'est qu'ils la professent en permanence. Ils la professent en permanence à l'égard de tous ceux qui leur déplaisent. Hein. Je veux dire, la manif pour tous, on va revenir un peu là-dessus peut-être, mais la débauche d'agressivité, d'injures, de menaces contre la manif pour tous, c'était hallucinant. Pierre Berger, vous en rappelez comme moi. Il avait dit, je crois, « Oh, s'il y a une bombe qui pète dans le cortège, ça me fera pas trop pleurer. »
Chacun son bon PD, comme chacun avait son bon juif à l'époque.
Bon, ça c'est encore gentil, mais il avait vraiment déploré, il avait dit, ouais, bon, s'il y a une bombe qui pète, voilà. Et d'autres avaient dit des choses comme ça, et comment dirais-je, et ça fait marrer, parce qu'ensuite, vous savez, quand il y a un petit incident ou un truc, bon, des fois il y a des violences, mais je veux dire, un incident qui n'est pas trop sérieux, comme Rissen, là, qui retweet l'endroit où se produit l'acteur juif, dont j'ai oublié le nom, j'arrive pas à comprendre son nom.
Berléand,
parce qu'il a manifesté son opposition aux Gilets jaunes, à aucun moment Rissen dit il faut aller lui péter la gueule ou machin. Il dit simplement il se produit là. Ce qui est une information publique. Je veux dire, il a un spectacle.
En plus, il fait de la publicité pour le spectacle.
Ouais.
Le sémite est ingrat. Hein.
À aucun moment il y a un appel à violence. Il dit voilà, donc ça veut dire peut-être les Gilets jaunes peuvent aller protester ou machin. Et les autres considèrent que ça c'est de la haine. Par contre, si je sais pas, moi, si Marine Le Pen, j'ai encore vu ça aujourd'hui, Marine Le Pen va dans une commune, je crois que c'est en Normandie, dans la Manche, me semble-t-il, prendre la parole ou faire un déplacement, il y a tous les vieux machins du Parti communiste, ouais, là, rendez-vous à tel truc, etc. Non, ça c'est pas de la haine, ça c'est de la démocratie. Ces gauchistes fonctionnent toujours de la même façon. Et là, on est dans la censure, mais la censure, c'est comme ça qu'ils vont la motiver. C'est comme ça qu'ils vont la motiver. Ils vont dire, ah non, excusez-nous, c'est pas de la censure. C'est pas de la censure, c'est de l'amour.
La nouvelle librairie, l'ancêtre de la librairie FACA, a été détruite le jour de la manifestation des Gilets jaunes. Hein.
Donc samedi 8 février, hein, c'est ça que tu veux dire. Hein.
Oui, je crois que c'est ça.
Ouais. Bah, c'est bien, ils attaquent des librairies, c'est bien. Démocratie. Alors messieurs, je continue l'article. Hein. Aujourd'hui, donc ça j'ai cité... Tant pour moi. Les process de modération mis en place sur nos sites et notamment sur les forums de jeuxvideo.com ne cessent de progresser, a assuré le groupe donc qui gère le site jeuxvideo.com dans un communiqué, se disant conscient de la puissance de ces espaces de discussion et soucieux d'ériger les garde-fous nécessaires. Notez le terme garde-fous. On est dans le clinique là. Hein. Et garde-fous, c'est... On va quand même empêcher un petit peu les gens de... Voilà. Quand des utilisateurs notifient de tels contenus, les plateformes les évaluent dans les 24 heures, dans 89% des contre 40% en 2016. 72% de ces contenus sont ensuite supprimés, contre 28% en 2016, selon ce bilan chiffré. Les résultats montrent que les plateformes ont pris leurs obligations au sérieux, a estimé Madame Jourova, donc la commissaire européenne à la justice, je le précise, qui les a toutefois appelés à améliorer leur retour d'information aux utilisateurs qui envoient des notifications. Le respect du code de conduite contre la haine en ligne, notez bien, la haine en ligne est une démarche volontaire, mais Vera Jourova a rappelé qu'une législation contraignante serait envisagée si les plateformes relâchaient leurs efforts, comme cela a été fait avec les contenus à caractère terroriste. Là, ce dernier paragraphe est particulièrement intéressant. Alors, on appelle ça une menace, hein, en langage commun. Hein. Voilà, c'est une menace. On mettra une loi en place si jamais vous ne suivez pas. On apprend que les contenus dits de haine... Bah, en fait, ça appellerait aussi une législation. Donc, soit vous nous aidez, soit vous aurez une législation et vous nous aiderez quand même, hein, par la force, pour lutter contre ce nouveau terrorisme qu'est la haine en ligne, hein, voilà, et dont on apprend que c'est le racisme et la xénophobie. Donc, en fait, si on n'accepte pas les bougnoules chez soi, on est un terroriste, il faut être censuré, nous dit donc cette commissaire européenne à la justice. Très intéressant, la justice. Lejeuxvideo.com, c'est un site de jeux vidéo, comme son nom l'indique. Il y a une espèce de discussion pour les jeunes, là aussi, un blabla, blabla 18-25. Et là, tout d'un coup, on voit sortir, on apparaît sur le tableau, une commissaire à la justice de l'Union européenne qui vient de Tchéquie et qui est née du temps du bloc communiste. Si vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui est bizarre, vous avez besoin de bouquiner un peu, je pense. Qu'est-ce que vous voulez en...
Oui, c'est la Commission européenne, c'est-à-dire que ce sont les fonctionnaires non élus qui sont en charge d'à peu près tout et n'importe quoi au sein de l'Union européenne qui viennent faire la loi. Quoi. C'est les cow-boys.
Bah, en fait, on a une commissaire politique qui vient d'un ancien pays du bloc de l'Est, hein, donc du bloc communiste, du bloc soviétique, qui vient expliquer aux jeunes Français de 18-25 ans ce qu'ils ont le droit de dire en menaçant les plateformes qui les laisseraient s'exprimer de mesures de rétorsion, parce que s'ils peuvent exprimer leurs opinions sans frein, c'est du terrorisme. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Voilà, on y est. Quand les gens disaient non, l'Union Européenne, c'est une Union soviétique en gestation, les gens disaient non, mais les mecs, ils déconnent. On y est !
Oui, c'est-à-dire que quand le mur de Berlin est tombé, bon, ben, il y a eu des échanges de chaque côté, on a récupéré des choses. Hein.
Bah, je ferai observer, il y a eu un procès de Nuremberg. On est d'accord, il y a eu un pour juger, soi-disant, les dirigeants du régime national-socialiste. Très bien. Rappelez-moi le Nuremberg du communisme.
Oui, non, ça n'a pas eu lieu.
Non, pas vraiment, hein. Non. Non, et donc s'il n'y a pas eu de jugement de ces gens-là, c'est qu'ils sont en liberté. S'ils sont en liberté, c'est qu'ils peuvent continuer d'opérer avec leur réseau, et que ce soit en Pologne ou ailleurs. Alors je dis pas qu'ils sont en pouvoir, hein, mais il y en a beaucoup qui ont été recyclés. Je pense que...
Merkel.
Bah Merkel.
Voilà.
Merkel, hein. Voilà. Hein. Elle encadrait les jeunesses communistes.
Voilà, la puissance... La puissance économique européenne principale, qui fait poids quoi, avec la France,
ouais.
Est dirigée par une ancienne cadre de parti communiste est-allemand.
Voilà.
Depuis un certain temps, hein. Pas depuis hier matin, hein. Ça fait une quinzaine d'années maintenant.
Bien sûr. Les Français ne mesurent pas parce que les Français n'ont pas été occupés par l'Union soviétique.
Ouais, les Français, ils voient Merkel, ils disent, tiens, ouais, elle est de droite,
c'est ça.
Bien, elle est de droite, et puis, bah, c'est bizarre qu'elle fasse rentrer des millions de cafres du monde entier. C'est étrange, hein. Bizarre. La droite, la gauche, non.
Oui. Effectivement, bon, c'est un agent antifasciste. En fait, ce sont tous ces agents du marxisme international qui ont été récupérés et retournés par la finance juive. Hein. Ni plus ni moins, ne cherchez pas plus loin. Hein. Simplement, si vous voulez, ils ont compris que le collectivisme, en fait, fonctionnait pas. Ils ont compris. Ils ont vu que le système économique soviétique fonctionnait pas, mais par contre, ils se sont dit que les théories fondamentales du communisme étaient justes. Ils sont retournés, et voilà, ils sont ralliés, recyclés, et hop, maintenant ils sont dans le grand bain de la finance trotskiste occidentale. Voilà, dominée par qui vous savez, quoi. Et ils appliquent, hein. Ils appliquent. Hein. Alors, avant de passer au deuxième point, quand même, ce truc intéressant, c'est Chiappa qui s'exprime. Donc dans la foulée de la censure, donc JVC maintenant qui va censurer sur l'ordre donc de l'Union Européenne, ils veulent complaire au pouvoir. La censure de l'Internet au programme du G7 en France, d'après Chiappa. C'est l'un de nos combats. En France, comme à l'étranger, je vais citer la source quand même, 20 minutes. En France comme à l'étranger, la pression s'accentue, nous dit 20 minutes, depuis quelques mois sur les grandes plateformes pour mieux lutter contre les dérives en ligne, les dérives, dont sont victimes de plus en plus d'internautes. Invité mardi soir à la remise des prix du Fonds pour le civisme en ligne organisé par Facebook, le secrétaire d'État Marlène Schiappa a annoncé à 20 minutes que la lutte contre le harcèlement en ligne et les discours de haine sur les réseaux sociaux serait l'un des principaux sujets mis sur la table lors du prochain G7 qui se déroulera au mois d'août en France à Biarritz. Donc le G7, c'est les 7 principales économies, on va dire, occidentales de la planète, parmi lesquelles les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, le Japon, voilà, parmi d'autres, quoi. C'est un sujet très important pour le gouvernement, c'est aujourd'hui l'une de nos priorités, et c'est pour cela que nous venons de décider que ce serait l'un des axes majeurs, notez bien, l'un des axes majeurs de la prochaine réunion du G7, qui se tiendra à Biarritz cet été, a expliqué la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme et de lutte contre les discriminations. Le harcèlement en ligne et d'une manière générale la modération sur les réseaux sociaux sont des qui préoccupent tous les pays, c'est ce qu'elle dit, hein. Nous devons y apporter des réponses communes. On parlait de communisme, bon. La France va se battre, c'est ce qu'a dit, hein, pour un projet législatif au niveau européen, contraignant les opérateurs du net et notamment les réseaux sociaux à retirer très rapidement le torrent de boue, les contenus haineux, racistes ou antisémites, avait déclaré en mars le Premier ministre Édouard Philippe, donc lors de la remise du rapport Taïeb, hein, initié par le CRIF, donc le gouvernement israélien, pour censurer les Français qui s'expriment trop librement. Nous ne pouvons pas faire tout seul, il y a un vrai travail collectif de régulation à faire, reconnaît aujourd'hui Marlène Schiappa, qui tient toutefois à rappeler que le gouvernement a déjà entrepris de nombreuses actions pour lutter contre le cyberharcèlement. Je passe les détails. Le gouvernement souhaite donc faciliter le processus de signalement entre les grandes plateformes et les pouvoirs publics pour permettre une meilleure prise en charge des victimes. Les réseaux sociaux doivent se responsabiliser, permettre aux utilisateurs de signaler plus facilement les messages violents, bloquer les comptes de harceleurs et surtout supprimer le plus rapidement possible des contenus illicites, détaille Marlène Schiappa, pointant notamment du doigt la plateforme Twitter, l'un des pires élèves en matière de signalement et de modération. Certes, ils ne jouent pas le jeu, font très peu d'efforts pour supprimer les contenus haineux. C'est pour cela que nous travaillons actuellement à un projet de loi sur le sujet. Il devrait être présenté dans les prochains mois. Dans le même article, d'ailleurs, elle se plaint d'avoir été traitée de pute à juif par certaines personnes. Je ne sais pas. Voilà, et ça, visiblement, ça l'énerve. Bon, elle fait du zèle. Législation européenne, bon ça je crois qu'on était déjà au courant, législation française de toute façon, censure généralisée, maintenant G7, moi je pose la question, quand l'ONU sera saisie de l'affaire démocratie participative, hein, je pose la question, hein, c'est là que vous voyez quand même que la France est dirigée par des fiottes complètement hystériques, femelles qui n'ont aucune espèce de retenue, et des juifs. Quoi. Franchement, je vous donne la parole. Dans la continuité sur le truc sur JVC, quoi, hein. Bon, maintenant, G7. Bon. Foutez-vous dans la peau quand même. Hein. Je sais pas, vous arrivez, je sais pas, le premier japonais, il arrive, il dit oh, on va parler de choses sérieuses. Trump, il va arriver, oula, on va parler de terrorisme, on va parler économie, tu vois. Non, l'axe majeur, c'est Il y a des mecs sur Facebook, ils disent des trucs, c'est insupportable. Le monde doit se coaliser.
Oui, c'est-à-dire que là, Macron, en fait, tu vois, bon, au lieu de mettre en avant, c'est bon, il pourrait rentrer en guerre économique, faire une guerre entre guillemets, mettre des éléments pour essayer de contrer Trump sur la tentative de barrage de commerce avec l'Iran, hein. Mais non, c'est pas ça la priorité de la France. C'est pas la priorité de la France, c'est pas que les usines comme, enfin, des entreprises comme PSA reviennent en Iran pour vendre des bagnoles. Ça, on s'en fout.
Non.
Le problème, c'est que il y a 10 connards, tu vois, sur Internet, et qui foutent des étoiles jaunes sur des juifs. Et ça, ça mérite que l'État français en entier, oui, les triangles roses aussi, et des os dans le nez, hein, des os dans le nez, Huguette, voilà. Bisous. voilà, il y a 10 connards qui font ça. Le monde entier doit s'arrêter pour régler ce problème. Je sais pas, hein, les actionnaires de PSA, voilà, vous savez que votre épargne ne va pas être défendue par le gouvernement français. Hein.
Ah non, mais là, on le voit là, le phénomène des tribus, on le voit, c'est-à-dire que le gouvernement français est en train de s'effondrer, rongé par des tribus qu'on a souvent décrite ici, donc pas besoin d'y revenir. Ça paralyse.
Oui, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent qu'à se sauver eux-mêmes. Ils n'ont plus aucune prise sur le réel. Macron, là, bon, chaque fois j'en parle, là, avec sa Startup Nation qu'il envoie, qui fait des trucs qui sont comme des gros fails intégraux. Il est arrogant avec tous les dirigeants du monde entier.
Ça,
au niveau de la diplomatie, c'est du zéro. C'est du zéro, zéro. Alors, sauf avec les nègres.
Il file doux avec les Arabes. Hein.
Et les nègres aussi, les nègres. Hein.
Les Égyptiens, c'est mal passé. Mais avec les Saoudiens et le Turc,
oui,
ils filent doux. Hein, il file doux, hein.
Oui,
c'est bizarre,
oui,
hein, quand
bon,
même. Oui, c'est une lope, en fait. On en ça, parlait, c'est typiquement une lope.
Hein. D'ailleurs, il est allé récemment à Molenbeek, on en parlait.
Voilà.
Non, voilà, hein, c'est, il est dans une optique de pré-soumission. Pour être élu, il a besoin de Demetek.
On peut établir quand même la liste de tous les pays avec lesquels il se frite, là, parce que ça devient quand même impressionnant. Hein. T'as l'impression que la France, c'est la Chine, tu sais.
Oui, c'était très rigolo cette semaine. Le fait d'avoir rapatrié l'ambassadeur de...
Ok, oui, non, mais... Et là, tu... Et ça, tu sens typiquement...
Le roquet.
L'arrogance du demi-PD, quoi. Frustré de s'être fait cracher à la gueule. Mais vraiment, quoi. Tu sais, d'un côté...
Demi-PD ou du gosse qui baisse sa prof, tu vois. Et aussi ça, c'est le bon élève, le faillot, tu vois. Le faillot qui... Qui dit non, mais attends, ça ne passera pas comme ça.
Rappelez un ambassadeur entre la France et. Non, mais tu dis putain, la vache, putain, là, il doit y avoir une de ces crises, etc. Non, c'est juste que Macron, il a mal digéré.
Alors, le financier Olivier Delamarche a dit Macron se comporte un peu comme un chien à qui on retire son os. Et encore, je ne suis pas très sympa pour les chiens.
Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais non, mais il y a un côté tata, quoi. Il y a un côté tata dans ce genre de décision. C'est un truc de tapette. Tu peux avoir une explication. Même si t'as un désaccord, m'en fous de ce qu'il raconte Macron.
Ouais, mais tapette, c'est un gâté, hein.
Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, tu peux avoir un désaccord politique important, mais ça se règle entre quatre murs, tu vois. Tu dis, ouais, bon, là, vous commencez à... tu convoques l'ambassadeur italien. Tu dis, ouais, là, vous commencez à nous casser les couilles, là, tu vois. Un truc un peu... Voilà. Ben non, c'est pas assez. Bon, peu importe. Tout ça pour dire, en fait, que pour en revenir au G7, on voit, en fait, que ces gens ne supportent pas d'être défiés. Le principe, en fait, le principe, tu peux te faire défier et répondre aux défis avec eux, c'est même l'idée même de se faire défier qui leur... Et c'est vous dire à quel point ces gens se considèrent comme...
Des dieux.
Des dieux. Vous comprenez, c'est ce qu'on appelle le blasphème ou le lèse-majesté, quoi.
Le lèse-majesté, pourquoi le lèse-majesté? Les rois de France étaient de droit divin. Hein. C'était pas tout à fait des êtres comme les autres. C'était le roi de France, c'était le lieutenant de Dieu sur terre. Donc, l'idée même de contester l'autorité du roi, avant même de rentrer dans les détails, quoi, était impensable. Et on est là-dedans. Sauf que c'est plus le lèse-majesté au sens traditionnel du terme, qui pouvait encore s'entendre d'une certaine façon, enfin traditionnellement. Là, c'est le lèse-pédé. Voilà.
Oui, donc, alors, juste un exemple là. Quelques gilets jaunes ont. Non, alors, c'est des salariés d'Amazon qui ont exprimé leur soutien aux gilets jaunes. Et évidemment, ils se sont fait licencier. Donc, tu penses bien que si tu offres un soutien virtuel à un mouvement d'ampleur nationale, si tu te fais licencier, imagine nous, quoi. Non, imagine nous si on devient. Si on ne devient plus anonyme, si les millions de goïms qui en ont juste plein le cul
des arabes.
Des arabes, puis aussi, on va dire, de la folie juive qui est en train de se radicaliser à un niveau effrayant, on risque effectivement de se faire éjecter de notre job alors qu'on n'a aucune raison de le faire. Donc pourquoi est-ce que on devient anonyme en fait. J'aimerais bien que les gens se posent cette question. Pourquoi est-ce que pour dire des choses sensées, dire des choses qu'on pouvait dire il y a encore une vingtaine d'années, on est obligé d'être anonyme? Ce sera peut-être une question qu'il devrait se poser.
Il pose pas
moi, j'ai la réponse. Hein.
Vas-y, Captain.
Les juifs sont désespérés là.
Il n'y a pas qu'eux qui sont désespérés. Hein.
Oui, mais toute la conjuration des parasites.
C'est ça. Le truc, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur la question de la moralité. Ces gens-là ne disent pas « on veut éliminer, éradiquer nos ennemis politiques ». C'est pas possible parce que ça serait assumer leur cynisme. Il faut venir avec de belles idées, des belles idées généreuses. Voyez, il faut être dans l'empathie, parce que n'oubliez pas que est sous-jacente l'idée qu'on est toujours là pour défendre des gens oppressés, des gens faibles. Hein. Je parle de la vieille mentalité chrétienne, hein. On est là quand même pour jouer les bons samaritains, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Donc il faut se présenter comme étant des gens qui veulent aider des gens dans la difficulté. Sauf que ces gens sont au pouvoir, c'est pas des faibles. Les gens dont on parle là. On parle de ministres, on parle du G7, on parle de législation, c'est pas des gens qui sont dans l'opposition, c'est pas des marginaux, c'est des gens qui sont au pouvoir. Mais ils prétendent défendre les faibles, les pauvres, ceux qui sont attaqués par des oppresseurs. Excusez-moi, comment peut-on être au pouvoir et prétendre lutter contre les oppresseurs? C'est absurde. Vous avez déjà vu comment dire des oppresseurs qui sont pas au pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire?
Je te ferai signaler tout de même que le ministre en charge de la censure, la vaginetta juif Mounir Majoubi, a annoncé cette semaine que la loi actant la bolchevisation de l'internet français était une loi pour faire de l'internet un espace d'amour. Ce n'est pas une invention de l'extrême droite, ça. C'est une citation. C'est une citation.
Il aurait dû rester assez marmé.
C'est un
cuisinier.
On n'a toujours pas les mêmes notions, en fait, les mêmes définitions, c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut remettre dans la gueule des gauchistes chaque fois que vous le pouvez. C'est que ce qu'ils prétendent de l'amour, ce n'est que de la haine, en fait.
Ouais.
Parce que leur prétendu amour, il n'inclut pas les blancs qui refusent leur destruction. Donc, tu vois, c'est comme quand tu as les gens qui disent « Je veux faire un monde meilleur ». Oui, d'accord, mais quand tu veux créer un monde meilleur et que pour créer ce monde meilleur, tu t'appuies sur la destruction d'un groupe en particulier, bon, déjà, ton projet, il est un petit peu… Comment dire, tu peux… tu peux pas te targuer de la moralité quand tu assassines un groupe en entier, quoi. Quand tu fais disparaître un groupe en entier, quand tu opprimes un groupe en entier. Et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait. C'est qu'ils se parent de la moralité alors qu'en fait, ce sont les pires des salauds.
Bah, ce sont des oppresseurs qui prétendent libérer les oppressés. C'est ça l'hypocrisie de leur truc. Et
Il faut vraiment être pris quand même pour gober ça, quoi.
Non, parce que tu vois, ils ne peuvent pas assumer le principe du pouvoir et de l'oppression. Parce que ce sont des minorités agissantes qui ont conquis le pouvoir, qui veulent donc à leur tour, à supposer qu'ils n'ont jamais été oppressés, mais qui veulent en tout cas opprimer maintenant ce qu'ils considèrent comme leur ennemi principal, l'homme blanc. Ils s'en donnent les moyens, mais ils ne peuvent pas assumer le principe de l'oppression puisqu'ils se présentent toujours comme des opprimés, et surtout c'est la condition même de leur légitimité. D'accord ? À la fois dans les représentations collectives qui ont été façonnées par, je veux dire, le christianisme qui reste présent, hein, bon, là je l'ai dit, opprimés, oppressés, les faibles, etc. Donc ils se prévalent de ça pour se légitimer. Donc ils ne peuvent pas tout d'un coup dire « Non, allez, maintenant on est des tyrans, on va vous... » Ils ne peuvent pas assumer le principe de l'ordre, le principe de la domination. Ça, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc ils doivent être à la fois ceux qui ont le pouvoir, les dominants, tout en continuant à s'exprimer comme des dominés. Et ils doivent présenter précisément les dominés comme des dominants. Et en ça, déjà, le système est totalement hypocrite. C'est-à-dire, l'hypocrisie est au cœur de ce système. Et c'est ça qui leur tient lieu de moralité. On a parlé de la définition de la haine comme quoi elle était en fait hypocrite. Bon, bah ça fait le lien avec ce que je dis maintenant. Il veut faire Internet dans un espace d'amour. Bon, je pense qu'il confond sa vie privée avec Internet, mais voilà. Mais toujours la même chose, comme tu l'as bien dit, en fait, quand il parle d'amour, il parle de haine, il y a un phénomène de projection. Et maintenant, comment dire, là, on est dans la phase finale de la liquidation de tous les opposants. Enfin, sur l'Internet, je veux dire, numériquement, quoi. Et comment dirais-je, quand ils veulent dire maintenant, on veut les noms, ils ne vont pas dire, on veut les noms pour réprimer. Ils ne disent pas ça comme ça. Ils disent, non, dans une société respectueuse, personne n'a peur de professer ses opinions. Nous sommes dans une société démocratique, alors ils veulent dire par démocratie, ils veulent dire qu'il soit libre, ouverte, où chaque individu peut dire ce qu'il pense sans avoir à craindre la répression du pouvoir. Bah, je viens d'en parler, donc c'est déjà fallacieux, mais bon, c'est ce qu'ils disent. Ils disent non, voilà, on est en démocratie. Et tout le monde pense qu'on est en démocratie, d'accord ? Tout le monde le croit. Hein. Donc ils placent ça comme postulat de départ. Ils disent, on est en démocratie, on est en république. C'est pas la même chose, mais il dit ça souvent en même temps. On est en démocratie, en république, donc vous êtes d'accord avec moi, c'est un pays libre. Et comme les gens sont conditionnés, ils réagissent immédiatement, bien sûr. Bon, bah alors, ne craignez pas d'exprimer vos opinions en public, vous ne serez pas persécuté pour vos opinions, monsieur, donc vous n'ayez pas peur de ce que vous pensez. Et vous voyez, grâce au conditionnement, ils obtiennent les réponses qu'ils veulent pour appliquer ce qu'ils veulent appliquer. Mais qu'est-ce qu'ils veulent appliquer ? Est-ce qu'ils veulent prendre ces mesures pour que les gens s'expriment librement et ouvertement pour que, comment dirais-je, un débat courtois ait lieu ? Ou est-ce qu'ils veulent simplement avoir les noms de leurs opposants pour ensuite les réprimer ? Bah, vous avez bien compris que le projet, c'est pas d'avoir un débat, c'est précisément de supprimer le débat. Vous avez constamment cette dualité, ce paradoxe, dirais-je, entre l'intention affichée et le but recherché. Ils disent, on veut un débat courtois, n'ayez pas peur de donner vos noms, ça tombe sous le sens, il faut que la loi le permette. Sauf qu'en réalité, derrière, c'est comment supprimer ce débat avec tous ces gens qui n'ont de cesse de contester notre légitimité. Voilà. On est en plein là-dedans.
Oui, d'ailleurs, c'est également très visible au niveau des grands fournisseurs d'accès ou des plateformes sociales comme Facebook. Mm-hmm. Hein. Je veux dire, quand tu es dans un... Personnellement, je suis banni à vie de Facebook. Je suis persona non grata, c'est-à-dire je ne peux plus recréer un compte.
Ouais, toi, t'es le seul que je connaisse comme ça. Mais j'ai jamais vu un mec comme toi. C'est incroyable. Ce qu'il raconte, c'est vrai. Enfin, nos auditeurs, ce type, c'est unique. Peu importe où t'es, hein, je crois. Hein. Peu importe
c'est ça.
Où tu te connectes. Ouais, c'est un truc.
C'est ça.
C'est-à-dire que à travers différentes machines et autres, ils arrivent à le choper.
Ah ouais, c'est. Y a rien
c'est
à
ça.
Faire.
C'est-à-dire que
explique
je.
Explique un peu.
Si
ouais.
En fait, avant, j'avais une page qui était assez mais anglophone et qui était qui avait de l'audimat. Et en fait, je cartonnais des gauchistes au niveau dialectique. Et j'ai pris un jour un report massif. C'était suite à l'attentat qu'il y avait eu en Norvège là, et je m'étais coltiné des tonnes de gauchistes féministes de plus de 40 ans et compagnie. Et bon, je les avais toutes déculottées quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à mon report massivement, j'ai perdu mon compte, et donc j'avais des comptes de secours comme tous les gens de notre bord. Et en fait, Facebook s'est rendu compte que j'avais des comptes de secours, et donc ça enfreint les conditions. Et donc, pourquoi on a des comptes de secours? Ça revient sur ce que tu dis, c'est-à-dire que on a des comptes de secours sur Facebook. Pourquoi? Parce que le débat n'est pas libre, parce que la parole n'est pas libre. Quand tu dis la vérité, quand tu la décris, boum, tu te prends de suite des signalements, des bans, tu es pénalisé dans ta vie sociale. Donc nous ne sommes pas en démocratie, nous n'avons pas le droit de dire ce que nous pensons. Donc du coup, tous mes comptes ont sauté, et en fait, moi je suis véritablement victime de la censure, hein, à titre personnel. Parce qu'effectivement, que ce soit sur mon PC, sur le PC des autres, dès que j'essaye de créer un compte, ça ne marche pas. Il y a une époque où je créais un compte, 2 heures après, il avait sauté. J'ai tout essayé, c'est-à-dire que j'ai essayé de prendre des faux noms impossibles, j'ai acheté une nouvelle ligne téléphonique, ça ne marchait pas non plus. J'ai renvoyé mes pièces d'identité non plus, c'est-à-dire que ma personne est véritablement persona non grata sur Facebook.
Ouais, c'est le seul.
Il y a rien d'autre à dire.
C'est le seul. Tu peux lui envoyer un lien Facebook. Tiens, regarde, il peut pas. Le type ne peut pas. C'est incroyable. C'est un cas. C'est un invraisemblable, mais c'est vrai. Et en fait, alors pourquoi on en parle? C'est le projet. C'est-à-dire que ce qui arrive à Captain, en fait, parce que ça lui arrivait à lui, mais la technologie, évidemment, est à disposition. Mais simplement, ils n'ont jamais fait un usage massif jusqu'à présent. Et puis ça ne peut pas être trop massif non plus. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bannir des centaines de millions de personnes.
Il faut quand même qu'il y ait du monde dessus. Sinon,
voilà.
Tu fais plus de fric. C'est ça leur problème. Tu vois.
Voilà, contradiction interne.
Ça reste des entreprises quand même. Hein.
Voilà. Et oui, et entreprise et communisme font rarement bon ménage, en fait. Sauf quand il y a un monopole d'État, évidemment. Et je crois que c'est le but, hein. En gros, c'est ça qu'ils veulent faire. Hein. L'Union Européenne, quand ils sont là, oui, il faut des partenariats. Bon, en gros, ils veulent des monopoles d'État. Alors, officiellement, Facebook, c'est une entreprise américaine. Bon, ouais, dans les faits, en fait, c'est un monopole validé par l'Union soviétique d'Europe occidentale. Et ils opèrent, ils font un peu de blé, mais globalement, ils sont le doigt sur la couture à la moindre injonction, tantôt de la Commission européenne ou d'une des républiques de l'Union, enfin de l'URSS, quoi.
Petite chose,
vas-y, ouais.
Je trouve que ce qui est en train de se passer, l'hypocrisie qu'il en a décrite, était assez bien résumée par Nathalie Saint-Cricq, qui intervient sur le plateau de France Télévisions, je crois, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo.
Oui.
Il y avait le mot d'ordre « Je suis Charlie ». Et elle avait dit « Il faut précisément traquer ceux qui ne sont pas Charlie
». Oui, oui.
Et je crois que notamment Michel Drac a parlé de peut-être que Charlie sera le visage du nouveau totalitarisme. Et c'est une question qu'il avait posée. Je pense que c'était une question pertinente et je crois qu'on est en train d'avoir la réponse. Il n'y a pas que Charlie, bien sûr, mais c'était un des événements qui...
En fait, c'est le point de départ. De la tentative, en tout cas. C'est le point de départ, ouais. Mais parce que Charlie Hebdo, enfin, c'est clairement le point de départ, c'est clairement là que ça s'est amorcé. Par contre, ça ne peut pas être une bannière, en fait, évidemment. Mais c'est là que ça s'est joué, quoi. De toute façon, cette mise en scène était bizarre. Hollande, Merkel, ils avaient ramené un nègre, là, ils avaient réussi à trouver un nègre quelque part en Afrique pour dire un président, machin, vous avez vu, c'est international. Netanyahou. Les mecs, c'était bizarre, vous pouvez la revoir, elle est sur YouTube, hein. Vous pouvez regarder encore
le Amishraël, oui,
ah là là, tout ça, ça c'était
pornographie, c'est mythique,
c'est plus que ça, c'est plus que le fait de, 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 de pas goûter la culture israélienne, mais c'est... tout ça sentait la mise en scène. C'était une mise en scène, mais tout ça sentait particulièrement mauvais. Il y avait... oui, bon, c'est simple. Hein. Dans la vie, il y a deux choses. Il y a les choses qui sont sombres, lugubres, négatives, et il y a les choses qui sont solaires, légères, belles, qui naturellement, en fait, font vibrer positivement l'âme et l'esprit hein, d'un être humain. Tout le truc Charlie Hebdo, enfin, je parle de la cérémonie, là, c'est une espèce de complaisance
la cérémonie de, oui, de l'enterrement. Tout, là, oui.
La manifestation et la cérémonie d'enterrement. Là, c'était caricatural. Hein. Une complaisance dans le morbide, le nihilisme, quoi. C'était vraiment du nihilisme pur. Hein. Mais moi, j'ai vu là la bête. Hein. Moi, j'ai vu la bête. Hein.
Ah oui, avec l'amant de Charb qui disait ouais. Ah, qu'est-ce qu'on avait pu s'enculer.
Ouais. Ouais.
Oui.
Puis devant les Maccabées. Ils avaient étendu des drapeaux noirs tout à l'intérieur, faisant allusion.
Je crois qu'ils ont chanté l'international, non aussi,
ils faisaient bien sûr allusion à l'anarchie, à la Commune de Paris, etc. Enfin, l'univers mental. Oh, tout le monde est pédé là-dedans, des juifs. Il y avait la Taubira qui était là en train en bas, là, la Guenon, en train de récupérer. Invraisemblable.
L'Église catholique qui fait sonner les cloches.
Ah, ils se sont pas trop. Ouais, il était de la partie.
Et Charlie Hebdo qui n'avait jamais critiqué d'ailleurs l'Ancien Testament, ni les gens de la.
Si,
les
juges, ont...
tout simplement, ou extrêmement
si,
peu.
Si. Hein. Si, ils ont un peu chatouillé les rabbins, mais. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux attaquer les juifs, tu vas pas attaquer les rabbins. Ça, c'est le dernier truc que tu veux attaquer. Pourquoi ? C'est absolument sans intérêt. Genre, ceux qui pensent que les juifs sont gouvernés par leurs rabbins sont juste des abrutis. Je veux dire, 95% des juifs ne vont jamais à la synagogue. C'est pas pour ça qu'ils sont pas juifs. Hein. Je veux dire, c'est attaquer les rabbins, c'est... Je veux dire, vous savez qui attaque le mieux les rabbins ? Les juifs. Ils ont des tas de blagues sur les rabbins, les juifs. D'accord ? Ils s'en foutent des rabbins, c'est pas le problème. C'est... Si tu veux vraiment blasphémer et faire chier les juifs avec ce blasphème, tu attaques les juifs. Pourquoi ? Les juifs en eux-mêmes, je veux dire. Pourquoi ? Parce que les juifs sont leurs propres dieux. C'est... tu vois pas... S'en foutent que tu... Ah, votre rabbin, machin truc, avec la barbe, ils s'en fichent. Ils n'en ont rien à faire. Rien à faire. Ah, il faut connaître un peu les juifs, hein, quand même. Ouais. Qui d'autre, sur tout ce qu'on a dit ? Bah, on est finalement en train de, tranquillement mais sûrement, entrer dans une théocratie. Hein. On l'a dit à deux reprises. La dernière mission, mais les missions précédentes aussi, je crois que ça y est.
Nous le prédisons depuis plusieurs mois maintenant. Oui. L'avènement du machia
dévoilement.
Oui, dévoilement, c'est ça. On va voir. Ils sont très contents d'affirmer leur pouvoir total et, pense-t-il, éternel. Bon, voyons. On verra bien. Personnellement, j'ai des doutes quant à la durée d'un tel système.
L'histoire parle plutôt contre eux.
Oui, oui, oui. Nous attendons, juifs, nous attendons.
D'ailleurs, juste en forme d'anecdote, mais ça c'est avant de nous séparer, vous n'avez pas remarqué que maintenant, Manuel Valls, à Barcelone, alors il a franchi les Pyrénées, on ne le reconnaît plus. Hein. Maintenant, il défile avec l'extrême droite.
Oui, 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 c'est intéressant. Hein.
Bon, contre les séparatismes, il défile avec l'extrême droite. Et pour la monarchie, hein, de facto. Fatalement, on va dire. En Espagne, si vous défilez avec l'extrême droite, ou même la droite, hein, il défile avec le Parti Populaire Espagnol et Vox, donc c'est vraiment les loyalistes, hein, les tenants.
Oui, Vox, c'est des gens très rigolos, un petit peu comme
oui, ils sont marrants, ouais. Ouais. Bon, ils sont philosémites quand même, il y a des philosémites, il y en a qui ne le sont pas, mais enfin, peu importe, c'est pas trop le sujet. Ce que je veux dire, c'est que c'est fascinant comment c'est, enfin, un mec qui dit « moi je suis républicain », vraiment transfiguré, hein.
Paf, il est dans 6 mois de républicain, il passe à royaliste ultra.
Mais non, mais il va devenir papiste.
Il va devenir papiste, Valls.
Bah, il va... Avec les Blancos.
Peut-être même qu'il deviendra islamiste, hein, je sais pas, ou shintoïste, je sais pas, bon, tout est possible. Hein.
Éternellement, jusqu'à la semaine prochaine.
Oh, là, non, il son visage se transforme quand même en hibou. Tu vois, moi, je le verrais bien en prêtre, je sais pas, un prêtre orthodoxe, un truc comme ça, tu vois, en Bulgarie, par exemple.
Mais c'est de qui déjà la chanson Je retourne ma veste toujours du bon côté.
C'est
Dutron.
Dutron.
Ah.
Mais il y a un truc avec les Alpes, c'est peut-être la flotte ou alors l'uranium, je sais pas. Mais visiblement, quand du sud au nord, on devient communiste, et quand on passe du nord au sud, on devient fasciste. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, les Pyrénées.
Les Pyrénées, oui.
Non, mais il y a un problème, hein. Vraiment, quand on les passe
du nord au sud. Le crétin des Alpes, lui, maintenant, c'est le crétin des Pyrénées.
Oui, il y a les crétins des Alpes, tu as leur équivalent, c'est les cagots dans les Pyrénées. Les espèces de hobbits, pour ceux qui connaissent pas, les hobbits européens, les races hobbits du Moyen-Âge.
On leur laisse aux espingouins le panu, on n'en veut plus.
Qui est pour l'annexion de Toulouse par les Espagnols?
Ah oui, moi, clairement. Enfin, si on pouvait même faire un canal, tu vois.
La vitrification.
Moi, je suis pour qu'on fasse de la péninsule ibérique une île, mais avec Toulouse et tout, là, tout ce qui est tous ces coins, là, allez, pfft, on fait de l'eau. Quoi.
À la semaine prochaine, chers amis.
À la semaine prochaine.
Hasta luego.